Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 52e numéro des spéciaux de Comic City, les spéciaux dits confinés.
Oui, c'était l'idée de départ, de continuer à vous proposer quelque chose durant cette période hallucinante.
Bon, ça devient une émission régulière en fait. Hein.
Oui, malheureusement pour nous.
On saura d'ici combien de temps il faudra qu'on arrête cette série, je pense d'ici 6 mois.
C'est bien parti pour. Bon, de toute façon, l'année 2020 est annulée.
Bon, allez, on annule. On lance les dés, on relance.
C'est ça, oui. On repart sur 2021. Je ne vais pas dire. Ça ne pourra pas être pire parce que ça le sera. Donc, autant nous préparer mentalement au fait que ça sera encore plus la merde.
Ah, mais ouais. On saura tout à l'heure hein, combien de temps on est repoussé. Normalement, jusqu'au 10 mai, apparemment.
Ouais,
déjà ce qui circule. L'allocution n'est pas encore passée. Hein. Nous sommes le lundi 13 mars. Non, 13 avril.
Avril. Heureusement, non. Putain. 13 mars, c'était le début du confinement.
On est tellement confiné, le temps passe tellement pas que je crois qu'on est encore en mars. Lundi
non,
13
non,
avril.
Je te rassure, on est mi-avril.
13 avril 2020. Et voilà, on est le lundi de Pâques. On va parler de Spider-Man.
On revient chez Marvel pour cette émission parce qu'on s'est pas mal attardé quand même chez DC au cours des dernières semaines et on voulait revenir non pas avec une rétrospective de Spider-Man dans tous les détails parce que ça il nous faudrait une émission de 6 heures en parlant en détail de tous les runs qu'on a aimés, tous les épisodes qu'on a appréciés, de tout ce qu'on a détesté aussi parce qu'on va pas se cacher, il y a aussi pas mal de choses qui nous déplaisent. On va plutôt cette fois-ci changer un peu la formule en s'intéressant à une histoire en particulier, considérée, je pense, à raison par beaucoup comme l'une des plus grandes, voire la plus grande histoire de Spider-Man. La dernière chaise de Kraven.
Bah non, Tommy a raison, c'est One More Day, la plus grande histoire de Spider-Man. Je suis entièrement d'accord avec lui. One More Day.
Oui, dans le sens où on aurait bien aimé que ça n'existe pas, oui.
Comme l'année 2020.
C'est ça,
tu vois, oui, finalement, tout est cyclique. Tout est cyclique. Non, mais en fait, pourquoi on fait qu'un arc? Parce que on sait que ça va durer et va falloir qu'on garde des billes pour pouvoir faire des émissions. Donc, si on veut pas trop niquer tous nos sujets d'avance, voilà.
Bon, ce qui me fait marrer la mention de Warmer Day, parce que j'ai commencé à regarder sur YouTube une interview sur la chaîne Drink and Draw, qui est avec Dan Didio, donc il a fait il y a quelques jours,
ouais,
premier contact.
Avec Joe Quesada, ouais.
Avec Joe Quesada. Et Joe Quesada, pour son surnom sur la chaîne, qu'est-ce qu'il a choisi? Joey One More Day Quesada.
Oh, quel bâtard. Oh, quel enculé. Putain, le troll. Le troll.
Ah là là. Ouais. Ça, personnellement, bon, ça me fait rire, hein, parce que c'est... Je dirais l'âge de guerre est enterré. Mais ça a été quand même au One More Day une plaie ouverte pendant un moment. Et quelque part, ça allait encore, parce que je l'ai souvent dit, mais One More Day, pour moi, ça a cassé quelque chose avec le personnage et la franchise. Ça n'a jamais vraiment été pareil ensuite, et je n'ai jamais retrouvé le lien que j'avais véritablement avec ce personnage, avec lequel j'ai vraiment commencé les comics.
Il y a Greg qui nous pose une petite question assez intéressante justement par rapport à Kraven the Last Hunt. Il nous dit, est-ce que d'ailleurs ce n'est pas le premier crossover entre les séries Spider-Man, entre elles? Alors officiellement, oui.
Je pense, oui, parce que jusque-là, en fait, les différentes séries existaient et se faisaient référence et mention entre chacune, ce qui pouvait d'ailleurs être perturbant. J'en avais parlé lors d'une review d'une intégrale Spider-Man, je crois que c'était 86. Où en fait l'épisode c'était mais où est Spider-Man, et en fait à la fin de l'épisode on te disait ben il faut aller lire l'épisode de Web of Spider-Man du mois pour comprendre. D'ailleurs tu m'avais gentiment trollé sur le sujet, mais Sam c'est pour que tu ailles lire Web of Spider-Man. Oui j'avais ouais j'avais compris. Et c'est vrai que c'est vraiment la première intrigue qui va passer comme ça de série en série et qui va forcer les lecteurs à aller chercher un épisode dans une autre série, ce qui est à la fois, on le sait, commercial, parce que ben ça a forcé pas mal de lecteurs à chercher des séries, peut-être Spider-Man qu'ils n'allaient pas voir. Peut-être que il il y avait des lecteurs qui justement se contentaient de lire Amazing Spider-Man et rien d'autre. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas les dollars pour aller chercher l'autre série, et c'était bien pratique. Et là, t'allais leur dire, bah, cette histoire est spéciale, il faut aller lire tout le reste. Et dans le même temps, c'est un avantage, parce que du coup, l'ensemble de l'histoire est sorti sur deux bras.
Ouais. Alors, il y a
plutôt que six, ce qui est
oui, c'est un avantage. Sûr. C'est sûr.
Vu la narration adoptée, je pense que ça aurait été très difficile de la suivre en la suivant sur 6 mois. Surtout qu'à l'époque, on n'était pas habitué. Alors, on était habitué aux intrigues à long cours qui étaient développées sur le temps, mais des histoires comme ça compactes en 6 épisodes, c'était encore très rare.
Mais il y a Pascal qui nous disait là justement, on avait le toutes les séries qui avaient vraiment une approche différente. MTU, Marvel Team-Up était action, Amazing était action et vie privée, Peter Parker était plus axé vie fac, avec des persos secondaires qui n'apparaissaient pas forcément dans les autres séries. Donc chacun avait une identité propre. Mais comme on le disait, crossover, et justement le sujet était venu sur le chat, et j'allais y venir justement, Greg nous dit autre chose plutôt cool, c'est que l'on conserve de Matéis et le dessinateur, donc Mike Zeck, tout au long des épisodes. Et effectivement, et c'est là que c'est un crossover, oui, mais ça n'a rien à voir avec les crossovers modernes, où on a chaque artiste, chaque auteur et chaque artiste qui reste sur son titre, et il se démerde à 3 ou 4 ou 5 en fonction du nombre de séries, pour que ça colle ensemble. Là, c'est tout est écrit par Dematéis, tout est dessiné par Mike Zeck, que ce soit les épisodes Amazing, les épisodes Web of Spider-Man ou les épisodes Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Ça te donne une unité totale.
Ouais. Mike Zeck, j'ai vu qu'il se colorise en partie aussi, ce qui montre l'implication. L'ancrage de Bob McLeod, tu le ressens quand même, parce que j'ai vu le style de McLeod sur New Mutant, et effectivement, tu retrouves sa trace hein, dessus.
Oui, mais ça convient bien, je trouve.
Ça correspond bien, ça colle bien au style de Zeck.
On n'a pas donné les titres, les numéros des épisodes qui y sont attachés. C'est Web of Spider-Man 31 et 32, Amazing Spider-Man 293, 294 et Spectacular Spider-Man 131 et 132. Et à noter, le petit truc qu'on va placer tout de suite, c'est que effectivement, Kraven's Last Hunt, c'est le premier crossover, mais juste derrière, le mois d'après, on a un autre crossover que tout le monde oublie. Mais on a un autre crossover qui enchaîne juste derrière, écrit par Anosanti, qui s'appelle What's the matter with my mom, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est What's the matter with my mommy. Voilà. C'est et en gros, Spider-Man va à nouveau disparaître. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il vient, de passer 2 semaines enterré dans la terre et le mec redisparaît juste derrière. Et pareil, un crossover qui est intégralement écrit par Anosanti et dessiné par Cindy Martin. Le crossover qu'on appelle souvent Mad Dogs parce que ça se passe dans un asile dans une partie qui s'appelle Mad Dogs, mais on a justement donc Kraven the Last Hunt qui dure pendant donc 2 mois et juste derrière on enchaîne avec un autre crossover tenu uniquement par une seule équipe créative. Je trouve que c'est hyper intéressant comme procédé.
Ah oui, Bad Dog, parce que je voyais pas de quoi tu parlais. En fait, effectivement, j'ai vu la cover qui est hallucinante hein, sur le 295. Ouais, extrêmement différente, très noire.
Mais les trois covers en fait, les trois covers de cet arc ont un style vraiment particulier.
C'est
dingue que on a retenu. Alors bon, Mad Dog c'est quand même vachement moins important. Hein, clairement en termes d'histoire, c'est que 3 épisodes, ça a vachement moins d'impact. Mais on se souvient de Kraven the Last Hunt et on oublie ce petit crossover qui est juste derrière et qui enchaîne. Comme quoi hein, l'histoire ne retire pas tout.
Ouais. 1987 qui est une année assez noire en fait pour Spidey quand on y pense parce qu'il commence donc il y a la fin effectivement précédemment du run de Falco Friends sur la série mais tu avais la Gang War juste avant, tu as eu le one shot Spider-Man Wolverine qui est sorti juste avant qui était quand même relativement noir parce que Spidey tue quelqu'un quand même et tu as la mort de Ned Leeds juste avant dedans donc ça commence à faire. Tu as donc la chaise de Kraven, tu as Mad Dog derrière, et ensuite tu as l'arrivée de David. Alors, je ne sais pas si on dit Michelini ou Micheline, parce que
Dit Michelini en fait.
Moi aussi. Et en fait, quand j'écoute les Américains, eux ils disent Michelini.
Ouais, bon.
Ouais, on s'en fout. Et en fait, quand tu arrives sur le run de Micheline, c'est beaucoup moins sombre, en fait.
Je pense que les premiers épisodes, tu peux dire les deux, en fait, hein, les gens comprendront.
C'est vraiment beaucoup moins sombre. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus pour l'audience mainstream de Spidey habituel, beaucoup plus simpliste aussi dans l'approche. Quand tu passes quand même de Travels of the Stunt à ça, parce que la Stunt est à la fois super noir, mais aussi extrêmement mature et extrêmement adulte, hein, comme récit. T'as énormément de thèmes adultes qui sont abordés dedans.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà, l'identité, la folie, la santé mentale.
On va y venir, on va dérouler le menu. De toute façon, on a le temps. Sachant qu'en plus, là, on traite que 6 épisodes, donc on a vraiment le temps de discuter en long, en large et en travers de ce crossover. Alors, bien sûr, on va le dire tout de suite, au cas où ce serait pas assez obvious, on va spoiler. Si vous ne l'avez jamais lu, bah, j'ai envie de dire tant pis. Là, enfin, on peut pas faire une émission spéciale sur un truc sans rien vous spoiler. C'est pas possible. En plus, ça a 80 ans, donc bon, à un moment. Voilà. Je prends quelques petites réflexions sur le chat. J'ai vu Pascal qui nous disait Cindy Martin, une artiste qui était intéressante, qui avait débuté notamment sur du Star Wars à l'époque.
Oui, j'ai vu ça. Oui.
Elle avait un style.
Qui avait terminé la série en fait.
Et elle avait un style qui tranchait vachement avec le reste de la production super héroïque actuelle. Hein.
Quand j'ai vu les épisodes en question sur Star Wars, alors je ne les ai pas, mais je les ai vus dans quelques émissions sur YouTube, c'est vachement différent. Hein. Mais même du style qu'il y avait sur Star Wars avant.
On a Elijah qui nous dit, entre celui-ci, donc Kraven's Last Hunt, Born Again, Year One, etc., vous comprenez pourquoi l'ado que j'étais à l'époque a accroché à cette vision très très mature et sombre de la BD américaine. Elle tranchait énormément avec la BD européenne pour ado que l'on avait à ce moment-là.
Ouais, mais de toute façon, 85, 86, 87... C'est vraiment les années pivot de la BD américaine. C'est à la fois le changement générationnel des auteurs qui commence vraiment à être marqué, le changement de ton où justement tu passes d'une BD qui était mainstream, qui était avant tout tournée vers les enfants et qui commence du fait du changement du marché puisque tu as le direct market qui commence vraiment à se développer, qui eux s'adressent à un public beaucoup plus adulte, enfin on va dire plus adolescent en fait, et jeunes adultes. T'as des tons mais on cite souvent 86 parce qu'effectivement c'est légèrement hallucinant quand tu penses à tout ce qui est sorti. Et je me suis fait la réflexion il y a quelques jours de me dire, Frank Miller a sorti Dark Knight Returns et Born Again en même temps. Ça a commencé en février 86, les deux. Donc tu as le mec qui te sort deux des intrigues les plus marquantes de l'histoire des comics la même année et en même temps.
Ouais, après, il avait prévu d'avance, je veux dire.
Oui, il avait travaillé dessus en 85, mais... Et je crois que le travail sur Dark Knight Returns, ça avait commencé en 84, déjà, donc c'est...
Ah tiens, il y a Greg qui... non, c'est Elijah, pardon, qui nous... Ouais, c'est Elijah qui nous partage la première édition VF qu'il avait, qui était celle de la collection Comics USA. Et ça me montre ce fameux Batman Vengeance Oblige qui était juste après, que j'avais justement, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir Frank Miller et Mazzucchelli sur Batman. Ouais. J'avais cette version là.
Ah, elle est magnifique cette couverture.
Et j'avais que le premier, j'avais pas la suite. Donc pendant très longtemps, je n'ai lu que cette première version sans lire la suite. C'était horrible. C'était horrible.
Qu'est-ce que je voulais aborder?
Donc je n'avais que la moitié du Orwan, c'était pathétique.
Ah bah c'est pas dégueulasse quand même. Hein.
Oui, mais j'avais que la moitié, j'ai pas lu la fin pendant des années, il a fallu que j'attende, je sais pas, 7-8 ans avant que je puisse lire la fin de Orwan. C'est alors, terrible.
En parlant de VF, vous pouvez trouver normalement, alors personnellement j'ai la version gold de Kraven Last, sinon... Ça fait quelques années qu'elle est sortie, je ne sais pas si elle est encore disponible. Mais grosso modo, je sais que Panini va la ressortir l'année prochaine, normalement. Alors, ils annoncent une anthologie sur le sujet, puisqu'en fait, les intégrales sont arrivées aux épisodes précédents. Et en fait, plutôt que de le mettre dans une intégrale, ils ont choisi le format anthologie. Pourquoi, je ne sais pas.
Alors, pour ce qui est de la publication là justement dans ces comics USA, j'étais en train d'essayer de retrouver le prix français de l'époque. Je ne l'ai pas. Alors c'était sorti en 88, donc c'était quand même assez proche de la sortie, hein, la sortie US par rapport à la sortie VF. Mais deux épisodes seulement, deux épisodes. c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Kraven's Last Hunt, donc appelé en français la mort du chasseur, donc bon bah déjà petit spoil, Kraven's Last Hunt, il a fallu 3 comics USA pour pouvoir le publier, quoi, à raison de 2 épisodes par truc. Donc putain, ça picote, quoi.
J'espère qu'à cette occasion ils referont la traduction, puisque c'est vous savez qui, Geneviève Coulon, qui assure la traduction en VF. Ce qui se ressent sur certains passages, parce que tu as de la traduction littéraire assez ratée. Parce que je pense qu'à certains passages, tu as le personnage qui dit « Why beating myself ?» Et elle se dit « Mais pourquoi se battre ?»
Oui, bah oui, bah oui. Voilà. Oui, la fameuse pourquoi traduction littérale.
Pourquoi se frapper ?
La fameuse traduction littérale.
Alors, c'est pas trop marqué, mais faut quand même avoir en tête le texte US où... D'accord, tu as traduit ça comme ça, mais en fait, le mot d'origine, ça doit être ça. Je vois.
Et Tommy qui nous dit d'ailleurs, mon édition de Kraven's Last Hunt sentait mauvais. Je sais pas pourquoi, le papier ou l'encre. Mmh, ah, c'est terrible. Ça, par contre, avoir un bouquin qui pue, ça, c'est chiant, quoi. Ça,
ah, c'est vraiment d'accord. Chiant. Quand en fait, c'est une expérience, la lecture. Ouais. Et tous les facteurs vont jouer, c'est-à-dire le scénario, le dessin, mais aussi l'objet. Donc, si l'objet est en mauvais état, ça va jouer. Mais si l'objet en plus te dégage quelque chose qui te fait vivre quelque chose de désagréable, ça va teinter ta lecture.
Ah, je sais pas si t'as déjà lu des bouquins qui étaient touchés par l'humidité, qui avaient un peu cette espèce d'odeur de moisi.
Non, j'ai toujours.
T'as jamais ah putain, qu'est-ce que c'est désagréable. C'est-à-dire que le bouquin en lui-même, bon, il est un peu gondolé parce qu'il a un peu pris l'eau, effectivement. Bon, c'est un peu chiant, mais tu vois, il est lisible, ça, l'encre n'a pas bavé, truc comme ça. Mais t'as cette odeur quand tu tournes les pages. Et putain, qu'est-ce que c'est horrible, quoi. C'est horrible, ça te bousille une lecture, ça. T'as qu'une envie, c'est d'arriver au bout, quoi. C'est atroce.
Donc, j'hésite. Soit je me reprendrai la version anthologie l'année prochaine, effectivement, s'ils ont refait la traduction. Soit j'hésite sur la version de luxe, américaine. On verra.
Ben, il faudra voir si, ouais, la traduction est refaite, quoi. Alors, en parlant un petit peu, avant d'attaquer Kraven's Last Hunt, je voyais... tout à l'heure, c'était il y a un petit moment déjà, quelques minutes, les gens partageaient un petit peu leur run qu'ils avaient aimé ou pas d'ailleurs sur Spider-Man, des runs un peu plus sombres. Mm-hmm. Il y avait Tommy qui nous disait notamment que lui n'aimait pas la mort de Jean DeWolf, par exemple.
Personnellement, c'est un récit que j'ai lu quand c'est sorti en best-of, il y a quelques années, et ça a été une très très grosse surprise. Bonne surprise. Parce que c'est sorti au début des années 80, et ça tranche en termes de ton, mais c'est surtout que je trouve que le récit est très bien mené, parce que l'identité de Sinter, qui est l'antagoniste du récit, en tant que lecteur, je ne l'avais pas vu venir, en fait. C'était super bien géré.
Tommy, lui, ce qu'il n'aimait pas, c'était le côté un peu trop grim and gritty, quoi.
Ah. Bah, le problème, c'est que c'est sorti avant que le grim and gritty ne commence vraiment. Parce que c'est vraiment Dark Knight Returns, c'est Watchmen qui ont lancé ça.
Et Tommy qui nous disait, lui, pour lui, que quand on parlait de David Michelini ou Michelini, prononcez-le comme vous voulez, pour lui, c'était rien d'autre que Spider-Man, que Iron Man, et rien d'autre. Ouais. David Michelini, c'est Iron Man, point.
Comme je lui dis, c'est quand même quelqu'un qui a signé l'un des runs les plus longs sur Amazing Spider-Man. Parce qu'il a commencé au 296, et il a dû partir vers le 360 ou 370. Donc le mec a signé quasiment 80 épisodes.
Ouais, mais bon, c'est en même temps, il a tellement œuvré pour Spider-Man, quoi. Pour Iron Man. Putain, je vais pas y arriver, bordel de merde.
Ouais, parce que son run le plus célèbre est dessus. Parce que Iron Man est quand même, quelle que soit en fait la période, un personnage qui a jamais été très mis en avant par Marvel, qui a jamais eu un succès colossal. Ça avait sa petite audience.
Ah, j'ai dit Tommy, pardon, je voulais dire Nico, excusez-moi, je me suis trompé, alors c'est Nico qui dit ça. Je pensais avoir dit Nico, j'ai peut-être dit Tommy, je suis désolé, vraiment, je m'excuse, je rends à César ce qui lui appartient.
Et en fait, c'est un peu à l'image de Daredevil, c'est que quand, comme Frank Miller avec Daredevil, quand Michelini et Bob Layton ont repris le titre Iron Man, ils ont quasiment réinventé le titre. Ils l'ont amené à des hauteurs qu'ils n'avaient jamais connues, et du coup, c'est resté le run de référence.
Grey qui nous dit petit joueur à côté de Dan Slott, néanmoins, effectivement.
Bah, je pense que tous les auteurs maintenant de Spidey seront des petits joueurs comparés à Dan Slott. Parce que
le
mec est arrivé au...
Ça dépend combien de temps Nick Spencer truste le titre.
Pas longtemps, j'espère. Mais de toute façon, Nick Spencer est habitué au run court, lui, donc.
Ça fait déjà pas loin de 40 épisodes qu'il est là, Sam, hein.
Ouais. Bah, Captain America, il est resté 30-40 épisodes.
Ouais, mais
en
c'est.
Comptant Secret Empire.
C'est que ça va vite, hein. Tu sais, en publication bimestrielle, ça monte très vite, hein, le nombre
très
de
bien.
Numéros. Hein.
Que ça continue à être bimensuel, comme ça, plus vite ça ira, plus vite il sera parti.
Et j'ai dit bimestriel. Putain, je dis vraiment de la merde ce soir. Waouh, ça va être dur. Sachant que j'en ai une deuxième derrière. Putain, ça va piquer là.
Mais comme je disais, Dan Slott, il commence au 549, si ma mémoire est juste. Et il part au 800.
801. Juste pour faire chier, je suis désolé. Il part au 800.
Non, parce qu'il l'a expliqué qu'il voulait, finir le 800 sur un gros truc. Et son dernier épisode pour une dernière histoire qui serait quelque chose de plus personnel. Voilà. Ce qui, quand tu lis l'épisode, se comprend. Ça aurait été bizarre d'avoir ce gros numéro anniversaire sur quelque chose qui est en fait beaucoup plus calme. Puisque c'est que représente Spider-Man pour vous.
Mais du coup, il est temps qu'on attaque le vif du sujet, à savoir Kraven's Last Hunt. On a essayé de poser un peu le contexte rapidement. Donc, comme tu l'as dit juste avant, il est encore marqué par la mort de Ned Leeds. Ça va vachement revenir là-dedans. On le répète, hein, J.M. DeMatteis au scénario, Mike Zeck au dessin. Ça commence avec un Kraven nu.
Plus animal que jamais.
Kraven tout nu. Et voilà. Putain, il y aura des moments où je vais troller. Hein, je suis désolé, mais
je t'en prie.
Il y aura des moments où je vais être obligé de troller. Hein. Mais Kraven, il aime bien avoir la bite à l'air quand même. Hein.
Bah, c'est pour jouer sur le côté justement retour. Bon, je disais que l'un des thèmes de la série c'était l'identité. Et en fait, Kraven, sur tout le récit, est quelqu'un qui évolue entre l'homme quasi sauvage et l'homme ultra. Extrêmement civilisé, qui ne se retrouve pas en fait dans aucun des deux. Entre l'homme qui est plongé dans la nature, qui obéit à ses instincts, qui essaye d'imposer sa domination et son pouvoir en quelque sorte, et l'ancien noble russe qui a vécu, qui a été marqué par une éducation, une culture, et qui est rejeté quelque part par ces deux. Par ces deux, voilà. C'est quand il est dans son état sauvage, son humanité le rappelle, et quand il est dans son habitat humain, il est rejeté parce que sa famille, il l'explique, a été exilé de Russie quand les Soviétiques ont pris le pouvoir, et sa famille n'a connu que la déchéance à partir de là. Donc il y a un rejet des deux côtés. Voilà, il a été rejeté de son humanité par l'histoire et le monde. Et il est rejeté du monde animal parce que, fondamentalement, il est un homme.
C'est quand même un petit peu oublié, malgré tout, une partie du passé, parce qu'il suffit de regarder la première apparition de Kraven the Hunter. Faut pas oublier qu'au départ, le mec était adulé par les caméras, le mec, on le suivait dans ses voyages, enfin, le mec était une véritable star. On a un peu passé ça sous silence parce que ça sert un peu plus l'histoire et parce que c'est compliqué d'avoir un ennemi de Spider-Man qui le pourchasse, qui veut le tuer, qui fait des dégâts partout et qui continue d'être adulé. On a oublié ce détail.
Il était un peu aussi une blague à ce stade, je pense, des années 80.
C'est le comte Zaroff, mais oui.
Son âge d'or, je dirais, c'est les années 60, où ça passait encore. Mais arrivé dans les années 80, où le réalisme commence petit à petit à s'imposer... Le personnage est désuet, en fait.
Faut dire que dans les années 80, ça reste un petit peu borderline d'avoir un mec qui se trimballe en slip léopard dans les rues avec juste un bout de tissu pour lui cacher la bite, quoi.
C'est ça. Bon, on signalera quand même... Alors, tu disais, oui, il aime se balader la bite à l'air. Signalons quand même le travail de Mike Zeck au niveau du dessin. Et surtout de la composition et de la lisibilité globale en fait du récit. Parce que le texte de Matteis est fidèle à ses habitudes, c'est-à-dire très psychologique, très profond, très on va essayer de dépiauter un peu ce personnage et de le révéler véritablement. Mais ça n'empiète jamais sur la lisibilité de l'histoire. C'est pas de la branlette intello, en fait. C'est pas, oui, je me regarde dans un miroir et regardez mon beau texte comme il est beau. C'est, je raconte une histoire en essayant de réfléchir et en laissant la place à l'artiste pour raconter l'histoire. Il y a des séquences qui sont,
silencieuses. Totalement.
Voilà, qui sont purement silencieuse qui s'appuie entièrement sur l'image et sur la décomposition du geste. C'est-à-dire que c'est pas la décomposition du geste pour faire « Oh, regardez, comme je fais comme au cinéma ». Non, là, c'est une utilisation véritable du langage pur au comics où je peux faire un arrêt sur image et passer à l'image suivante pour montrer l'action suivante.
On en voit, par exemple, ça... Dès le premier épisode, il y a beaucoup de séquences. On va s'attarder sur l'histoire puis on viendra sur l'analyse après. Mais vu qu'on est lancé là-dessus, il y a toute la séquence où Spider-Man, puisqu'il est habillé en costume, c'est pour ça que je vais l'appeler Spider-Man, vient voir le malfrat qui est mort, sort du fric de son slop. Je veux dire, il le sort, je sais pas, il cachait le fric en dessous ses couilles, j'en sais rien. Donc il y a des poils de bite d'araignée sur les billets. Il les sort de son slip, il les balance dedans, donc il y a une véritable décomposition du mouvement. Et la page d'après, on le voit se coucher, il voit une araignée sur le mur, il est prêt à la tuer ou en tout cas à la virer, se ravise, puis éteint la lumière. Il y a vraiment cette décomposition qui est surtout
marquée sur la page suivante avec Kraven. Ouais, la séquence avec les araignées.
Bien sûr, mais tu vois que c'est déjà amené avant même cette première grosse séquence.
Mais tu la vois dès la page 4 en fait, quand Kraven va chercher le costume de Spidey dans le cercueil.
Remarque, c'est vrai, oui, on le voit poser.
Donc c'est un outil narratif qui va être utilisé tout au long du truc. Bon, passons aussi sur silence le fait que le slip de Peter ressemble plus à une couche, mais passons.
Ah, mais c'est le slip kangourou des années 80, ça, c'était à la mode, Sam. Écoute. Les slips kangourous, aujourd'hui on a des slips taille basse, mais à l'époque, non, c'était des slips kangourous.
Voilà. Et avant de se relancer dans le racine, putain, mais cette page de Kraven avec les araignées, elle est, moi, je l'ai admirée pendant plusieurs minutes parce que c'est de l'art à couper le souffle, vraiment. La décomposition du mouvement, la manière dont Kraven se fait ensevelir petit à petit par les araignées qui petit à petit, non pas le dévore, mais il se plonge dedans carrément. Puis il en ressort comme une espèce de renaissance et il commence à les dévorer et c'est...
C'est de la merde, j'ai jamais vu un truc aussi moche.
Puis il y a le jeu avec le texte en plus.
Sérieusement, le dernier dessinateur de Daredevil, là, celui qui faisait une midi rondouillette, était bien, bien meilleur. C'est mauvais, ça. On appelle ça de l'arc séquentiel, moi j'appelle ça du caca séquentiel. Ouais. C'est horrible, cette page est horrible. Elle est nulle. De toute façon, Mike Zeck, on l'a pas revu depuis et c'est bien pour... Il a raison. C'était nul. Il est mauvais, ce mec. Voilà. J'aime pas que les gens aient trop de talent. je supporte pas les gens qui ont trop de talent.
Jalousie s'exprime très clairement. Mais ce qui m'a frappé, c'est très rarement utilisé en fait comme outil aujourd'hui, ça.
Oui, bien sûr. Bah, non, mais, alors qu'on décompresse à l'extrême aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. On pourrait le faire, mais non.
Et ça renvoie sur un commentaire que je vois de plus en plus s'exprimer par beaucoup d'auteurs et beaucoup de dessinateurs. À savoir que on a essentiellement des visions de scénaristes et les artistes ne sont plus que des illustrateurs de cette vision. Ils ne sont plus qu'une extension quelque part du scénariste.
Mais on est revenu autant dans les années 80, fin des années 80 et surtout les années 90, on était vraiment sur des décennies pour les artistes. C'était vraiment le dessinateur qui était mis en avant. On est depuis les années 2000, il y a eu un basculement dans les années 2000 et on est revenu sur l'ère du scénariste.
Et je ne sais pas si on va... À un moment, il faudra trouver un équilibre, je pense. Parce que, comme tu le dis, avec la décompression, je pense qu'on est allé trop loin, en fait. C'est marquant, parce que ça, c'est un arc en 6, et pourtant, il se passe une chier de trucs dedans. C'est visuellement et thématiquement ultra dense, et ultra marquant comme récit. Il y a pas mal de trucs qui sont en 6 parties, qui lancent des séries aujourd'hui. Je serais infoutu de te dire ce qui se passe dans certains épisodes, parce que je publie cet épisode pour tenir la place, pour arriver jusqu'à la fin de l'arc, en fait. Voilà.
Mais un des seuls auteurs que l'on voit faire ça, et encore, ça reste beaucoup dans des scènes d'action, et pas forcément dans des scènes d'ambiance, c'est, de façon très récente, c'est dans la série The Batman's Grave. Où on a véritablement une décomposition de l'action. Alors, on est dans la scène de bagarre, on est vraiment dans la scène d'action. Mais c'est le seul comique de mémoire récente qui utilise ce type de narration très décompressé dans le mouvement, en fait.
Oui.
Et on n'est pas à ce niveau-là.
Il laisse la place à l'artiste.
Mais faut dire qu'aussi, on était à une époque où ça gênait absolument personne d'avoir 5, 6 cases par page. Mmh. C'était ouais. tout à fait normal d'avoir 5, 6 cases, voire plus. Voire plus, parce que quand tu comptes la page dont on parlait avec Craven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 cases sur cette page.
Ouais. Et j'ai pas l'impression que le dessin est étouffé, au contraire.
Non.
C'est juste que le nombre de cases joue parfaitement avec les idées qu'ils veulent faire passer.
Deux pages plus loin, t'as l'opposition où tu vois Spider-Man qui se balance dans les rues et tu vois Kraven de l'autre côté. Je veux dire, t'as trois cases d'un côté, trois cases de l'autre, et puis deux cases en dessous. Enfin, je veux dire, on est sur une énorme page où il y a huit cases. Le dessin est très petit, très minutieux, très fouillé.
Voilà.
Et ça fonctionne. Et j'ai pas l'impression d'être surchargé. Pourtant, il y a du texte sur la page. Mais la façon dont elle est composée, cette page, elle respire et je me sens pas étouffé quand je la regarde.
C'est ça. Bah, c'est-à-dire que tu parles très bien de l'opposition, parce que d'un côté, c'est Spidey qui se balance sur sa toile, et de l'autre, l'arrivée de Kraven. Et en fait, le découpage par case décompose le mouvement, mais aussi amène l'attention, puisqu'on voit les deux personnages arriver presque en collision l'un avec l'autre. Alors, revenons à l'histoire, désolé, on s'est perdu dans l'analyse.
On s'est un peu perdu, mais c'est que, bah, on était sur ce sujet-là plutôt que se couper. Pour devoir revenir dessus et se répéter ou oublier des trucs, autant finir le sujet sur lequel on est dès le départ. Et puis bah après, vous ferez le tri, écoutez. bon, c'est bon.
Non, on est libre dans nos corps et dans nos têtes, donc...
Non, j'arrête. Je vais partir en cacahuète. Bon, on va résumer très rapidement. On a, comme son nom l'indique, la dernière chasse de Kraven, Kraven's Last Hunt, ou la mort du chasseur, selon Comics USA.
C'est bien de nous spoiler dès le départ sur le sujet du truc. Hein.
C'est ça. On va avoir Kraven qui va aller affronter, qui sent que sa fin est proche finalement.
Ah mais il le dit dès le départ, je dois mourir. C'est quasiment dans la, je crois que page 3, page 4, 5.
On viendra après sur les causes, les explications, tout ça. Ouais.
Et d'ailleurs, je me suis dit en fait, j'ai vraiment pas ça à Dark Knight Returns en fait. Parce que c'est le début de Dark Knight Returns, c'est Bruce Wayne qui est là, je cherche ma mort, en fait. Mais j'en cherche une qui soit à la hauteur. Et c'est un peu le même thème, là.
Ah, on y viendra. J'ai pas exactement la même explication que toi, tu vois. Mais après, c'est ça qui est bien. C'est qu'on y voit peut-être des choses différentes. Ou on choisit d'y voir des choses différentes, peut-être. Moi, j'ai choisi de voir autre chose. Et on va confronter la vie. Je vais vraiment finir le pitch et puis après, on
décortique. Désolé.
Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, le Kraven va affronter Spider-Man. Il va aller le chercher pour l'affronter une bonne fois pour toutes et se débarrasser de lui. Et là, bah, par chance, cette fois-ci, il y arrive. Il y arrive. On a un Peter qui, lui, est... pas bien dans sa tête à ce moment-là. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il vient de subir de plein fouet la mort de Ned Leeds. Quand il commence, il va dans un bar où il y a beaucoup de malfrats pour
honorer.
Oui, voilà, c'est ça. Je l'avais façon Jean-Claude Van Damme, et c'est horrible. pour honorer la mémoire d'un malfrat qui est mort, et il voit que beaucoup de malfrats ont malgré tout peur de lui. Et pareil, le côté peur, la peur de Spider-Man, on va y revenir puisque on va parler aussi de la genèse de cette histoire-là après. Kraven va finir par un moyen. On est sur de l'onirique à la limite de la magie. Confronter Spider-Man, arriver à l'empoisonner ou en tout cas l'affaiblir avec des drogues et va lui tirer dessus et le buter et l'enterrer. Mais Kraven étant complètement ouf, il va décider de devenir Spider-Man à la place de Spider-Man. Il va revêtir la peau de son ennemi, comme on l'a vu revêtir cette espèce de manteau en forme de lion avec une crinière de lion et ce slip léopard. Il va revêtir cette fois-ci la peau de l'araignée, donc le costume de Spider-Man, et va devenir Spider-Man. Mary Jane, qui venait de se marier avec Peter pas longtemps avant, elle venait juste de se marier. Elle était sur le point d'emménager avec lui.
C'était le mois d'avant, en fait.
Ouais, et elle était sur le point d'emménager avec lui, sauf que Peter, disparaît. Alors, plusieurs semaines. C'est là que j'ai un petit problème avec le comic, c'est que, on te dit plusieurs semaines.
Deux semaines.
Jusqu'à ce qu'on se ravise, vers l'épisode 4 ou 5, et on te dit que c'est que deux semaines, finalement. Parce que, au tout départ, quand Mary Jane dit, quand elle sait plus où est Peter, ça fait plusieurs semaines. La notion est vague. Mais c'est plusieurs. Et c'est vrai que ça n'avait pas de sens que le mec ait disparu 6, 8 semaines, 3 mois. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, ça peut pas passer inaperçu. Donc, il s'est ravisé en cours de route sur que 2 semaines. C'est déjà bien assez long quand même. Hein. Donc, Mary Jane est perdue. Et on va avoir l'arrivée de Vermine, qui va se retrouver là.
Vermine, oui, qui sera le quatrième point de vue du récit.
Qui est un espèce d'homme rat sur lequel a été fait des expériences, qui est, pareil, plus sur la nature bestiale que sur la nature humaine. Par chance, Peter n'était pas mort. Ah bah, ça tombe bien. Il arrive à s'en sortir après une expérience plus ou moins métaphysique de vision du tunnel blanc. Hein,
C'est-à-dire. Ah mais pour moi, en fait, Kraven ne l'a pas tué dès le
non,
départ.
Non, il l'a pas tué. Voilà.
Mais il l'a pas tué. Il l'a volontairement en fait plongé parce que c'est dit plus tard dans le bouquin dans une espèce de coma drogué parce qu'il l'a drogué en fait au début du truc. Parce que son idée dès le départ, c'est effectivement à la fois de le chasser et pour se faire, il rentre en fait dans sa tête. C'est pour ça qu'on voit cette scène d'absorption d'araignée où il les dévore carrément pour pouvoir devenir lui. Et en fait, on a après cette rentrée dans la tête de Spidey qui est psychologique, il va le prendre sa place physiquement.
Et ensuite, on a donc Peter qui s'en sort, va retrouver Mary Jane parce que finalement c'était la pensée qui l'a aidé à s'en sortir. Ouais. Alors, chérie, je t'aime, viens, on baise. Et après, il dit, bon, bah, ça y est, je me casse. J'adore. C'est bon. OK. Et il va confronter Kraven, gagner, confronter Vermine, réussir à s'en sortir. Et tout ça finira par un Kraven qui se suicide.
Alors, je ne dirais pas qu'il gagne contre Kraven. Ce qui est vraiment marquant justement sur la fin de ce récit, c'est qu'en fait Kraven refuse même de le combattre. Et il y a une domination psychologique de Kraven sur Spidey sur la dernière partie, parce qu'en fait tu le vois mener Spidey dans ses caves et l'inciter à se battre avec Vermine. Tu te dis ne te bats pas, pas la peine d'affronter Vermine. Et tu comprends qu'en fait le maître est devenu une espèce de maître d'orchestre. Voilà, je suis devenu toi, je t'ai vaincu. J'ai pris ta place, j'ai vaincu un adversaire contre lequel tu n'avais jamais rien pu faire. Pourquoi est-ce que je te combattrai à nouveau? Je t'ai écrasé, je te suis supérieur, je n'ai plus rien à prouver.
Et il y a quand même c'est ouais.
Pour moi c'est vraiment le moment où il
relâche le combat. Oui, pardon, j'ai été un peu vite en besogne effectivement.
Il le prive même en fait de parce que Spidey quand il retrouve Kraven, il est prêt à l'écraser. Parce que tu te fais enterrer vivant pendant 2 semaines par un type, tu vas aller le buter.
Le dernier élément que j'ai oublié dans le résumé de l'histoire, c'est que quand Kraven est devenu Spider-Man, qu'il a fait régner la justice, bon, par miracle, il a réussi à trouver Mary Jane quand elle allait pas bien. Bon, ça c'est, hein, c'est le miracle. Il a buté un mec. Il a buté un mec. Ouais. Et quand il se suicide, il laisse toute une confession en expliquant qu'il avait pris la place, preuve photo à la pluie, qu'il avait pris la place de Spider-Man, qu'il l'avait enterré, et que c'est lui qui est responsable du mort, et non pas Spider-Man lui-même. Ce qui explique pourquoi Spider-Man ne sera jamais poursuivi par la suite pour avoir tué quelqu'un.
Bon, moi, là, c'est clair.
Voilà rapidement l'histoire. On a fait le pitch. Maintenant, on va pouvoir passer aux détails. Est-ce que tu veux entamer tout de suite la genèse ou est-ce que tu veux qu'on passe plutôt sur l'analyse et on parlera peut-être de la genèse après?
Non, c'est bon, on peut lancer la genèse dès maintenant. Mais ça expliquera des choses justement quand on fera l'analyse.
Je t'en prie, vas-y.
Alors, l'idée est née dans l'esprit de Matéis, je crois, plusieurs années auparavant. Il voulait justement, je crois, explorer l'idée du vilain qui bat le héros et prend sa place pendant un certain temps. Et l'idée était à la base d'appliquer cette histoire dans l'univers de Batman. Et ça se voit d'ailleurs à certains moments.
Ah bon?
Du récit.
Bah, pas du déjà, tout. J'aurais dit que c'était une histoire de Green Lantern au départ. Hein.
tu parles de la peur de Spider-Man au départ. Bah oui, c'est ça. Enfin, quand Spider-Man apparaît justement dans le toit, il est dans la brasserie où, les différents criminels honorent justement celui qui est mort. Quand Spidey apparaît au plafond, c'est une scène typique de Batman.
Bien sûr, bah oui. La réaction des malfrats, c'est la réaction qu'ils ont face à Batman. Alors même si on nous l'a expliqué, effectivement, c'est expliqué déjà depuis un petit moment que le Spidey avec son costume noir est un peu plus brutal, un peu plus. c'est quand même beaucoup plus Batmanien que Spider-Manien, quoi.
Oui. Ah, je vois aussi Greg qui cite le fait que De Matteis avait à l'origine proposé ça pour une mini-série Wonder Man et qu'il aurait opposé à son demi-frère, le Grim Reaper. Je sais pas si ça aurait si bien fonctionné, donc finalement Tom DeFalco a bien fait de rejeter l'idée.
Oui, ça correspond mieux à du Batman, quoi.
C'est pour ça qu'ensuite il a essayé de revendre l'idée pour Batman, qui, franchement, ça serait passé aussi. Hein.
Ça aurait très bien fonctionné. Justement, que ça s'interrogeait sur les personnages qui auraient été mis en place. Alors, Hugo Strange, effectivement, dans le rôle de Kraven. Oui, bien sûr. Et il y avait des incompréhensions sur le fait que le Joker aurait pu être utilisé. Joker dans le rôle de Vermine, oui.
Oui.
Clairement, Joker dans le rôle de Vermine, sur la folie et l'humanité. Est-ce que le mec est encore humain, tellement il est fou, ou pas? Enfin, pour moi, je veux dire, l'utilisation de Joker pour remplacer Vermine me paraît absolument pas incohérente.
Non, ça passe aussi. C'était justement pour montrer le spectre et surtout pour faire contrepoids avec justement Kraven.
La question reste, est-ce que quand Bruce Wayne aurait pu s'échapper enfin de son cercueil, serait-il rentré à la maison et aurait-il fait la même chose à Alfred que Spidey a fait à Mary Jane?
J'espère pas, parce que ça aurait fortement compromis leur relation.
Ça aurait pu fonctionner avec Raz aussi, nous dit Gray. Ou Vandal Savage. Ou Vandal Savage dans le rôle de Kraven. Ouais, rap, pas vraiment, parce qu'il y a vraiment le puits de Lazare qui enlève toute suspension d'incrédulité au fait de le tuer, quoi.
Ouais. Parce que justement, la mort de Kraven à la fin du récit, c'est le point d'orgue, en fait. c'est le moment où tu dis, oh putain.
Gray nous dit que ce serait avec Robin qu'il aurait fait la même chose. Et oui, effectivement, mais oui, bien sûr. Je pense que Ra, on n'aurait pas eu peur pour le personnage parce qu'il l'aurait mis dans un puits de Lazare après avoir détruit sa réputation ou n'importe quoi. Là, on a quand même, je veux dire, c'est au quatrième épisode. Donc, il y a déjà tout un mois qui s'est passé. À la fin du premier épisode, Spidey se fait buter. Je veux dire, l'épisode se termine par Spider-Man qui se fait enterrer. Ouais. T'as l'impression qu'il est mort. Tu vois le cadavre dans le cercueil, on referme le cercueil et on l'enterre. T'as vraiment l'impression qu'il est mort. Kraven le remplace. Enfin, tu te dis, mais tu t'en viens à te dire, mais il va pas revenir. Enfin, tu vois même pas de moyen pour qu'il revienne. Il y a rien qui est laissé dans les deux épisodes suivants te laisser penser que Peter est encore vivant. C'est vraiment à l'épisode 4 où tu le vois déjà sur la cover, cette magnifique cover sortir de terre là. Elle est super belle cette couverture.
Alors, il joue en fait avec la tombe parce que tu sais, t'as des petits encarts. On voit la tombe justement de Spidey sur les épisodes suivants. On voit une araignée se déplacer sur la pierre tombale. On voit un rat passer dessus. Donc tu te dis il y a un petit fil qui s'installe. Et effectivement on arrive sur cette séquence. Tu te dis très bien la sortie de la renaissance de Terre qui est ouf.
Mais il faut vraiment attendre un mois complet pour savoir que Spider-Man n'est pas mort. Et tu as lu deux comics de plus. Alors oui, quand on est habitué, on se dit bien bon bah bien sûr ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Bien évidemment, mais je trouve que dans le récit, ça fonctionne bien parce que pas un moment tu doutes. Enfin, sauf si tu t'arrêtes pour y réfléchir deux secondes, mais c'est tellement bien raconté que sur le moment, c'est crédible que le mec soit claqué, quoi.
Surtout que, comme tu le dis, il disparaît entièrement de l'histoire. Voilà. C'est Kraven prend sa place et Peter n'est plus du tout mentionné. Voilà, il n'apparaît plus. Il n'y a pas de mention. Il n'y a pas d'indice qui est donné par le scénariste qui te dit bah en fait le mec est vivant, il est juste enterré vivant.
Alors je prends pas mal de réactions, il y a énormément de réactions très intéressantes sur le chat, donc je vais en profiter pour faire un petit point et puis on va continuer de rebondir dessus. Et Liju nous dit je pense que l'histoire est d'autant plus forte avec Spidey par rapport à Batman justement que l'histoire ultra sombre et désespérée fait énormément le contraste avec le héros lumineux. C'est ça qui ajoute à la force de l'histoire justement. Et avec Batman ça n'aurait pas été pareil. Jonathan disait le mec vient juste de mettre la pauvre Barbara dans un siège roulant et faire du tricycle avec des nains ailés à Gordon, faire du tricycle pardon avec des nains ailés à Gordon, mais on va encore lui demander si le Joker est humain. Bon, effectivement à ce moment-là ça aurait sonné un peu bizarre, mais en même temps rappelons que Killing Joke n'est pas réellement dans la continuité. Oui et non, on sait pas vraiment, c'est des fois oui, des fois non, ça dépend.
Bah écoute, au début du New 52, on n'arrêtait pas de nous dire que c'était dans la continuité.
Oui, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non. Bah, au début du New 52, voilà, mais avant, on ne savait pas. Alors oui, elle a été blessée, mais est-ce que c'était vraiment dans Killing Joke? Ah, le commissaire Gordon a-t-il vraiment subi ça? Non, on n'en reparle plus jamais. Tu vois, enfin, pour ça que je dis que est-elle vraiment dans la continuité? Il y a toujours le doute avec Killing Joke. Gray nous dit, est-ce que d'ailleurs cette histoire n'a pas permis à d'autres histoires plus sombres par la suite d'être amenées, comme la saga du clone par exemple?
Pour moi, ça montre un basculement dans les histoires de Spider-Man qui justement deviennent plus matures après ça. Ça commençait déjà à pointer le bout de son nez avant, parce que comme je dis, j'ai cité différents runs, différents passages où l'année 86-87 commence à devenir plus sombre, mais il y a clairement un avant et un après Kraven the Last Hunt, pour moi, ça c'est clair. Alors, c'est pour ça que quand je me suis repris quelques épisodes de McKinney ensuite, qui reprend la série Amazing Spider-Man, t'as une rupture de ton qui est assez folle. Alors, si tu te dis en plus qu'il y avait le crossover Mad Dog entre-temps, qui, je pense, n'était pas une balade dans les prés et les champs pour Spidey, ça avait l'air quand même relativement sombre.
Ah bah oui, enfin, Mad Dog, le mec, après avoir été enfermé dans un cercueil, se fait complètement drogué et enfermé dans un asile psychiatrique. Je trouve que c'est une très mauvaise décision de l'avoir publié juste après. Ça a complètement plombé ce récit. Alors qu'il l'aurait sorti 6 mois plus tard. Alors, même s'il y a des références, on voit que, ils ont tenu compte, parce que dès le premier épisode de Mad Dogs, tu le vois, tu vois Peter marcher dans la rue et se dire, oh là là, après que Kraven m'a fait enterrer, m'a fait perdre 2 semaines, tu vois que le mec est pas bien. En plus, on t'explique que Mary Jane n'est pas là parce qu'elle est partie à Paris pour un shoot photo, enfin. Mais, le mec se fait quand même piéger et enfermé dans un asile psychiatrique où le mec est devenu un légume tellement il est drogué. Alors, après avoir été enterré pendant 2 semaines, le mec redisparaît encore dans un asile. Ça fait too much. Et je trouve que l'histoire perd de sa puissance d'avoir été publiée juste après Kraven.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on la référence plus, c'est qu'elle vit un peu dans l'ombre de cette histoire. Voilà. Je te dis, ouais, il y a eu ça, et puis il y a le run de Michelini, et l'arrivée de McFarlane au 296, je crois. Et c'est ça qu'on retient, en fait, de la période.
Il y a Lucie qui nous disait « Spidey, je le trouve pas si lumineux. C'est un gros torturé, problème d'argent, de cœur. Il est un peu responsable de la mort de son oncle, sa copine, son beau-père, son hamster. Il était déjà pas tout net, le garçon. »
Je pense que c'est avant tout une question de ton. Il y avait quand même un ton beaucoup plus léger pendant des années sur les séries Spider-Man. Alors, c'est vrai que ça dépend des années. Parce que j'ai l'impression que la deuxième partie du run de Stan Lee sur Spidey, notamment quand on part du 50 jusqu'au 100, 120 et le run de Jerry Conway, t'as des passages quand même assez sombres. Donc on l'a cité, la mort de Gwen Stacy, la mort du père de Gwen. Ça, le ton devient plus sombre et plus adulte sur cette période-là. Et puis ensuite, je connais un peu moins les années 70, mais je pense qu'il y a une espèce de formule qui s'est mise en place sur les séries Spider-Man, où les auteurs savaient comment faire fonctionner la série et comment la faire fonctionner pour un public relativement jeune. Donc c'était un peu sombre, mais pas trop. Et on, comme un alchimiste, en fait, je te mets un combat contre un super vilain, les ennuis d'argent, la vieille tante May qui nous fait la 55e crise cardiaque du mois, et puis on balance avec les problèmes de cœur de Peter et on sort l'épisode comme ça. Voilà. Et de mois en mois, c'était ça, avec une situation qui évoluait plus ou moins. Donc, lumineux, oui, il l'est, parce qu'il est plus léger qu'un Daredevil à la même époque. Mais bon, tout est plus lumineux qu'un Daredevil, je pense. À part peut-être Batman. Voilà, nos deux gros torturés, là. Mais au moins, Batman est riche.
Là, je me demande si Daredevil a quand même pas plus subi dans sa vie que Batman.
Je pense, si. Parce que la grande mode, quand même, chez les scénaristes, c'est de comment je fais souffrir ce personnage. Sachant que ça marche beaucoup mieux avec Matt Murdock, parce que Batman peut être un gros con, mais on lui pardonne, et Matt peut être aussi un gros con, mais on lui pardonne un peu moins, parce qu'en fait, il revient en fait toujours sur les mêmes problèmes et les mêmes... Voilà. Et on ne citera pas le commentaire de Pascal, parce que c'est trop noir, je dis ça entre parenthèses.
Ah, si, moi, je le citais, moi. Daredevil voit tout noir, donc c'est pas lumineux, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il voit vraiment tout noir? On sait pas trop, hein, son sens radar, peut-être rouge, peut-être rose. Alors, ça dépend des auteurs, hein. Des fois, c'est lumineux, des fois, non. On continue avec, justement, les thèmes abordés. Alors, pour toi, tu voyais sur Kraven le fait que il veut mourir parce qu'il n'a plus rien à prouver, quoi, si j'ai bien compris ce que tu disais au départ.
Oui, alors, je pense que c'est une double réalisation. C'est à la fois le fait qu'il a atteint tous ses objectifs, il est arriver au bout de sa mission. Et en même temps, quand tu arrives à la fin du récit, c'est une réalisation, une révélation personnelle à laquelle il arrive. Parce que quand le récit démarre, tous ses problèmes, il les colle sur le dos de Spider-Man. Voilà. La folie de ma mère, c'est la faute de Spider-Man. La chute de mon père, c'est la faute de Spider-Man. Tous les échecs que j'ai vécu dans ma vie, c'est la faute de Spider-Man. Et arriver au bout du récit, arriver au bout de ce cheminement intérieur que Kraven fait, parce que, comme je te dis, il devient Spider-Man dans sa tête, et physiquement, il le devient. Il arrive à la conclusion, mais non, ce n'est pas cet être omniscient qui a gâché ma vie. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme, et je n'ai fait que tenter de détruire un homme. Voilà. Où est l'honneur?
En même temps, il le voit meilleur que ce que, en fait, il avait pas compris que le mec était bon. Et quand il, là où il vraiment, il change son fusil d'épaule, c'est quand il le voit épargner Vermine.
Ouais.
Que lui ne l'aurait pas fait. Mmh. Et il se dit finalement, Spider-Man est meilleur que moi. Une chose que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs, et je vais venir ensuite sur le pourquoi enfin, ce que je ressens moi par rapport à sa mort. Jamais il ne le démasque. Il s'en fout. Totalement. Il en a rien à foutre. Il l'enterre avec son masque et il veut pas savoir. Ça ne l'intéresse pas de savoir qui est sous le masque.
Et il a raison dans le sens où ça lui aurait fait réaliser dès le départ que Spider-Man était qu'un homme en fait sous le costume. Il voit en fait l'être comme une espèce d'entité et il ne voit pas l'homme. Et tu as cette séquence justement où Peter, quand il sort de ce coma, où tu vois t'as tout cheminement. Où il l'explique très bien, c'est tu as tué Spider-Man, mais en fait Spider-Man n'est qu'une extension de l'homme en fait. Donc tu ne peux pas vraiment le tuer si tu ne me tues pas moi.
Mais Peter le dit quand il sort, hein, je ne suis pas Spider-Man, je suis Peter Parker.
Voilà.
Je suis Peter Spider-Man Parker.
Spider-Man n'est qu'une extension qui ne peut exister sans moi.
Et c'est vrai que c'est la totale différence entre un Spider-Man et un Batman.
Oui.
C'est que Batman est Batman. Il n'est pas Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est son costume.
Et son masque, oui. Bah, alors ça, c'est un débat qu'on a, je pense qu'on l'aura encore dans l'avenir, parce que je trouve que justement les scénaristes sur Batman au cours des 15 dernières années à peu près, ont essayé justement de renverser cette idée, qui vient en fait de Frank Miller, hein. Très clairement. C'est lui qui, dans Dark Knight Returns, dit « Bruce Wayne est mort dans cette allée avec ses parents, quelque chose d'autre est né, quelque chose de plus sauvage, quelque chose de plus mortel, quelque chose de beaucoup plus sombre, qui est Batman en fait ». Et depuis, je pense que ça date de Ed Brubaker et Greg Rucka, dans le crossover Batman Murderer Fugitive, où justement, pour ceux qui s'en souviennent, alors je fais un peu d'histoire, et voilà, le crossover est disponible chez Urban, pas pour ceux qui sont curieux, où le personnage sombre complètement, décide d'abandonner son identité de Bruce Wayne pour être Batman à plein temps, et au fil du récit, les scénaristes disent, mais en fait c'est une connerie, Bruce Wayne existe toujours, il est juste quelque part, voilà, il est là, mais c'est compliqué de le refaire s'en sortir. Et si tu prends les runs récents, et je pense notamment à ce qu'ont fait Snyder et Tom King, Bruce Wayne, je trouve, a beaucoup repris l'ascendant sur Batman. Hein. Voilà. Et XP qui dit, mais Superman c'est pareil, Clark Kent c'est son costume. Je pense que c'est beaucoup plus équilibré dans Superman. Je pense que, notamment depuis John Byrne, Clark Kent est la véritable identité. Voilà, dans sa tête, il s'appelle Clark et c'est sa véritable identité. Et Superman n'est que ce qu'il peut devenir.
Ouais, moi
on a un renversement là.
J'ai toujours vu Superman comme Clark Kent en fait. La véritable nature, et c'est ça la très bonne opposition entre Batman et Superman justement au sein du même univers, c'est que Bruce Wayne qui est humain n'aspire qu'à être Batman et s'il pouvait l'être 24 heures sur 24, ça l'arrangerait. Oui. Alors que Superman. Et Superman, oui, avec ses pouvoirs, mais s'il pouvait être Clark Kent 24 heures sur 24, il le ferait.
Ouais.
Et c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est aussi pour ça que les mecs sont les meilleurs amis, et que... Et je trouve ça toujours génial quand on a une véritable aventure entre les deux, où les mecs parlent ensemble. Mm-hmm. Parce que tu peux explorer cette relation, et c'est malheureusement que trop peu de fois fait. C'est plus souvent de la bagarre, et... parce qu'ils ont des vies privées, nous dit Grey, et Batman n'en a pas. Oui, effectivement.
Oui, il est entièrement consacré. D'ailleurs, c'était quelque chose, alors je sais pas si vous l'avez vu, il y a une interview assez longue de Grey Rucka qui est sortie il y a pas longtemps. et où il explique sa vision de Batman, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'adore son run, entre autres choses. Bon, c'est Craig Oka, donc effectivement, je vais adorer son run. Et où il explique très bien, Batman fait un choix, en fait, à un moment. C'est-à-dire que Bruce Wayne pourrait mener une vie de luxe, d'oisiveté, de luxure même. Voilà, je suis milliardaire, je fais ce que je veux. Et qui, chaque matin, quel que soit le temps, son humeur, son état physique, va se lever, va mettre son costume et va partir en guerre. Et il va sacrifier pour ça tout ce qu'il a et tout ce qu'il est.
C'est ce qu'était un Green Arrow avant son séjour forcé sur l'île. Mmh. Voilà. Un mec qui dilapide son argent et sa fortune.
C'est ça. Et je trouve que ça fait de... C'est pour ça que je pense que Greg Oka l'écrit aussi bien, de se dire quand même... De revenir au concept du personnage et de se dire voilà un mec qui pourrait vivre une vie paisible et riche et vivre toute la vie que je pense pas mal de gens rêvent, et de se dire il sacrifie tout ça pour de la violence et une souffrance quotidienne. Revenir quelque part à ce côté tragique des personnages et aux choix qu'ils font pour se révéler dans leur apparat le plus héroïque possible, ça, c'est la force d'un scénariste. Et on en revient pour ça à Kraven the Last Hunt, et au passage que tu évoquais justement où il voit l'honneur de Spidey qu'il laisse, qu'il ne veut pas tuer Vermine, malgré tout ce qu'il a subi, parce que le mec sort de 2 semaines d'enterrement vivant et psychologiquement dans un état lamentable. Et qui, malgré ça, malgré ce qu'il a subi, ne va tuer ni Kraven, ni Vermine.
Ouais, enfin, il est à deux doigts de le buter, quand même, hein.
Il est à deux doigts, mais quand il voit que Kraven ne veut pas le combattre, et que Vermine n'est qu'au fond qu'un être torturé qui, quelque part, n'obéit qu'à sa nature, bah, il se retient. Au dernier moment, c'est ça qui fait véritablement l'héros, c'est que même poussé au bout, avant de passer, la ligne, même à l'extrême limite, ils savent se retenir. Ils trouvent la force.
Mais tu vois que Peter a quand même, et c'est ce que j'ai aimé dans l'écriture de Dematteis, c'est que tu vois que Peter est quand même un sale con. En même temps, il est humain. En fait, il est humain. Voilà. Oui. C'est un sale con parce que c'est un humain.
Il n'est pas parfait, mais il aspire quand même à être, être meilleur.
Avant de se raviser et de ne pas le tuer, il lui dit quand même, et c'est là que tu vois l'humanité de Peter Parker et le fait que le mec a des gros défauts, parce que là c'est quand même des sacrés gros défauts. Il dit non mais il m'a tiré dessus, il m'a enterré. Est-ce que tu sais ce que ça fait, espèce d'animal dégueulasse, stupide.
Mmh. Parce que là il parle à Vermine et qui est justement l'opposé de Kraven, que Kraven qui a une figure extrêmement humaine, et Vermine qui est l'opposé absolu, puisque c'est un être à l'aspect extrêmement animal, qui a tué plusieurs personnes en le dévorant, donc qui est l'extrême opposé.
Tu vois que sous le coup de la colère, il dit des choses qui sont quand même assez lourdes, enfin, je veux dire, il le traite d'animal stupide, enfin, c'est quand même...
C'est dur,
c'est très dur. Et c'est pour ça que je trouve que l'écriture de Dematteis est somptueuse, parce qu'il te le fait pas passer pour un héros sans faille, il te le fait passer pour un sale con. Mais en même temps, je veux dire, on serait enterré 2 semaines. Comment on réagirait, nous? Il est juste humain, en fait. Et il nous prouve, par A plus B, qu'il a beau avoir de la force, que oui, c'est Peter Parker. Ce n'est pas Spider-Man. Et je trouve ça génial dans l'écriture. Pourtant, c'est qu'une phrase, hein.
Ouais.
Une seule phrase. Mais avec ça, tu comprends ce qu'il a voulu dire, quoi. Il a voulu te montrer que le déifier, ça
en
sert
fait,
à rien.
Un homme meilleur qu'il n'est, oui, ça nous...
Pour revenir sur ce qu'on avait abordé tout à l'heure, le fait que Kraven va mourir, pour moi, quand je l'ai lu, c'est pas la première fois que je le lis, mais ça m'a refrappé encore vachement sur cette histoire-là. Pour moi, Kraven sait qu'il va crever à cause de son habitude et sa mauvaise habitude à abuser de substances psychotropes qui lui permettent d'être plus fort, etc. Et,
mais c'est dit dès le début. Hein.
Un espèce de cancer qui ne dit pas son nom. Et clairement, il sait qu'il va crever, alors il veut partir dans un bang. Et il était condamné, en fait. Il choisit de se flinguer à la fin, mais il était condamné quoi qu'il arrive.
Oui, ce qui est dit dans les premières pages, c'est Mais on n'échappe pas éternellement au temps, ni herbe ni potion ne saurait régénérer un esprit agonisant, ni guérir un corps miné par l'âge. Je dois mourir, mais pas encore. Mais tu as raison, effectivement, il y a cette idée sous-tendue que il y a quelque chose qui ne va pas chez lui.
Le mec s'appelle Kraven, il a forcément envie de crever, nous dit Lucien.
Oui, mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est la contradiction qu'il vit en fait en tant qu'être humain et la relation avec ses parents. Voilà. Entre comme je disais, cet aspect sauvage qu'il y a dans sa personnalité et l'aspect extrêmement civilisé du fait de ses parents et le conflit aussi qu'il y a entre cette image qu'il a de ses parents absolument parfaite qui ont été détruites par le temps, le pays dans lequel ils ont vécu et la folie. Et en fait, le message de Mathéis, c'est quasiment de dire, bah, son père n'était pas un dieu, sa mère est devenue folle, et lui-même est devenu fou, en fait. Est-ce que, aussi, il ne joue pas sur le fait que sa mère est devenue folle, et qu'elle s'est tuée aussi? Parce que tu as l'effet miroir, sa mère aussi s'est tuée, lui-même, on arrive à cette extrémité. Voilà. Est-ce qu'on est, le produit de nos parents aussi? Enfin, c'est,
J'ai un thème dont j'ai envie de parler, mais je voudrais qu'on termine là-dessus parce qu'après je sais qu'on va partir sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu voulais aborder, Sam, de façon
non,
sachant qu'on a le temps, on n'est qu'à une heure d'émission, on a encore largement le temps.
Non, vas-y, tu peux enchaîner.
Alors, quand tu penses au, je vais essayer de te mettre sur la piste. Attention, pyramide, je te fais deviner.
Roulette.
Je vais pas bien. Il faut vraiment qu'on sorte du confinement, quoi. Pitié. Quand tu penses au run ou aux arcs marquants sur Spider-Man, alors c'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure de One More Day, mais ces 20 dernières années, quels sont les runs qui te paraissent les plus marquants sur Spider-Man?
Straczynski.
Ouais.
Slott, forcément.
Ouais. Non, mais Straczynski, ouais, on va creuser là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait d'important pour toi, Straczynski?
Alors le premier, ça a été de développer la mythologie autour de l'origine des pouvoirs de Spider-Man, donc avec tout le côté animal, magique, qui est totémique, voilà. qui a été apporté. Et l'autre, ça a été les relations avec ses proches, que je trouve extrêmement bien développées. Ça a été, un, la relation avec Tante May. Je détestais ce personnage, avant. C'est d'ailleurs pour ça que, moi, l'un des premiers épisodes que j'ai lu, comme j'ai dit, c'est Amazing Spider-Man 400, où elle crève. Et où le signal envoyé, d'ailleurs écrit par Demaïs.
Un très très bon Demaïs, j'adore son run.
Un de ses meilleurs épisodes. Et où le signal envoyé, c'était on va faire avancer le personnage, et il était temps en fait que Tante May meure. Voilà. Temps, parce que c'était, on perd tous nos parents à un moment ou à un autre. C'est un passage obligé. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il faut que Peter, s'il veut avancer, une étape de sa vie qu'il va devoir affronter. Et le fait de la faire revenir, je ne voyais pas l'intérêt. Surtout qu'après l'avoir fait revenir, en fait, les scénaristes n'en ont rien fait du personnage. Elle était juste là, elle faisait chier de temps en temps, et puis c'était tout. Et ce que fait JMS, c'est justement en débloquant la situation, parce que pour moi, ils étaient dans une impasse avec cette relation, en lui révélant l'identité de Peter, en lui disant, Peter est Spider-Man, voilà. Les épisodes qui suivent et tout le run va jouer justement sur cette relation, où Mary Jane va venir aussi, entre la relation entre sa pseudo-mère, parce que Tante May est sa mère de substitution en vérité, et la femme qu'il aime, qui est Mary Jane, et vraiment nous faire aimer ces personnages et leurs relations. Ça devient réel, ça devient une vraie cellule familiale, hein, plutôt qu'une cellule qui vit dans le mensonge. Et pour moi, ça a été ses plus grands apports, en fait. Ça et le fait qu'il avait trouvé une nouvelle situation professionnelle pour Peter, je trouvais que l'idée d'en faire un prof était très très bien. C'est très bien vu et ça permet de débloquer. Là aussi, de débloquer, c'est pour ça que le mot qui définira le run de JMS pour moi, c'était de débloquer l'impasse créative dans laquelle était le personnage et la franchise, en faisant en sorte que le personnage aille dans de nouvelles directions, qui apparaissent fraîches en même temps logiques.
Je voulais qu'on y vienne sur le run de Straczynski, tout simplement parce que comme tu as parlé des pouvoirs totémiques, mm-hmm. Est-ce qu'on n'y voit pas déjà une amorce là?
Oui.
Le côté, parce que on voit Kraven qui certes par les drogues, par tout ça, imagine tout un tas de choses, avec cette espèce de d'araignée géante formée de plein d'autres araignées. On a quand même Vermin qui contrôle les rats.
Les rats.
Hein. Est-ce qu'on n'a pas déjà les prémices finalement de l'animal totem et de ce pouvoir de contrôler les araignées, contrôler les rats, contrôler les autres animaux en fonction de l'animal dont tu représentes les couleurs.
Bah, il y a même les cases que tu évoquais en début d'émission où Peter, tu sais, joue avec une araignée à un moment. Tu sais, va l'écraser, puis finalement, non. Ça joue aussi avec ça. Et je pense que c'est parce que l'imagerie animale est présente dans les séries Spider-Man depuis le début. Enfin, la plupart de ses ennemis ont un totem animal. D'ailleurs, c'est une idée que JMS a repris quand il a instillé l'idée du totem animal en disant, mais tu t'es jamais demandé pourquoi la plupart de tes ennemis se référer à un animal. Docteur Octopus, ben, une pieuvre. Le rhino, le scorpion, ça t'a jamais marqué en tant que truc, non? Donc, ben, c'est normal, c'est parce que tu les attires, en fait. Voilà. Parce que ton pouvoir appartient à quelque chose de plus grand et tu attires des pseudos dans ta toile. C'était très bien vu de sa part. Mais effectivement, t'as raison, je trouve ça joue à la fois avec cette idée ancienne du bestiaire animal dans le monde de Spider-Man. Et c'est une idée peut-être qui a titillé de Matteis à un moment.
C'est vrai que moi, j'y ai vu vraiment les prémices et je pense que Straczynski s'est vachement inspiré de ça, entre autres, pour son histoire de totem, que ça a dû rester dans un coin de sa tête. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait déjà, de toute façon, on avait déjà plus ou moins le côté un peu totémique, tout ça, avec l'arrivée de Madame Web, bien des années auparavant. Il y avait tout ce côté, cette espèce de toile physique, enfin au sens littéral, cette toile d'araignée plus ou moins mystique, plus ou moins onirique, était déjà là. Il y avait tout ça. Et c'est marrant comme voir que avec plein d'années d'écart, parce que Madame Web, c'est aux alentours du 100, par là. Là, on est au 290, quasiment au 300. Pour JMS, on sera encore 10, presque 20 ans plus tard. À 20 ans d'écart, à chaque fois, tu vois les scénaristes qui s'inspirent pour créer leur histoire et pour enrichir la mythologie. Et putain, qu'est-ce que c'est bien quand ça se passe comme ça.
Ah, oui, putain, c'est la continuité qui nourrit les histoires. Hein. Comme quoi, c'est pas une faiblesse de DC. Hein.
Quand on passe pas son temps à essayer de détruire ce qu'a fait le scénariste précédent. Hein.
Oui.
Jonathan qui me dit franchement des Matteis aurait dû faire Gibbon's Last Hunt.
Ah, bah, c'est une bonne blague parce qu'on sait que de Matteis aimait bien en fait Gibbon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a utilisé quand il a écrit un peu plus tard Spider-Man. Et ça montrait bien en fait les deux aspects de la personnalité de Matteis qui à la fois peut faire des récits extrêmement adultes, extrêmement sombres, et à la fois bah, c'était le co-scénariste de Giffen sur la JLA période humoristique. Et qui, sur Spider-Man, pouvait aussi faire des épisodes extrêmement drôles, extrêmement légers. Ça montre, en fait, la gamme et le spectre de ce scénariste.
Et en parlant du Gibbon, hein, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à relire l'épisode de Spencer qui traite de sa mort, qui est très bien. Très, très bien. Il est très bien fait, cet épisode. C'est un très bon épisode. C'était pendant le... Putain, merde, j'ai oublié le nom du run. J'y retourne en vitesse parce que...
Mon Dieu. Pas Hunted?
Ouais, ça doit être ça, ouais. Putain, ouais,
c'est un hommage à Kraven The Last Hunt, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris.
Bah, bien sûr, puisque c'était organisé par Kraven. Donc, Ah, oups! C'est pas sorti en VF.
Non.
Bon, de toute façon, il est sur la première page du premier épisode, donc, si vous comprenez pas. Et d'ailleurs, quand tu regardes la séquence, on a un Kraven à poil, qui est en train de se battre contre une espèce de panthère. Qui ensuite bute un, enfin il passe à côté d'une statue de gorille à poil, va se rhabiller et va devant un cercueil. Je veux dire, l'hommage, c'est un putain d'hommage de ouf à Kraven's Last Hunt complètement.
Bah de toute façon les premières pages de Kraven's Last Hunt c'est ça. C'est Kraven qui combat une statue de panthère puis une statue de gibbon.
Mais c'est exactement les mêmes pages. C'est exactement les mêmes pages dans Hunted. Justement, on va peut-être parler du retour de Kraven parce que bon, il y a la mort de Kraven, effectivement. Par la suite, Kraven, bon, il est revenu, hein, on le sait. Notamment aussi tout avec toute cette histoire d'animaux totems avec tout ça. Il y avait déjà le fils de Kraven qui est venu chercher des noises à Peter pendant les années 90.
Oui, qui a jamais vraiment marqué.
Il tenait Peter pour responsable de la mort de son père. Ouais, bon, ouais, le mec s'est suicidé, hein. Je vois pas, c'est pas Peter qui a tiré, hein, mais.
Sachant bon. Qu'ensuite, De Matteis a révélé que le caméléon était le demi-frère de Travan.
Oui. Ouais.
Enfin, il a eu des enfants à ne plus savoir qu'en faire, parce que ça a été aussi exploité durant Brand New Day. Oui, il a des filles, il a des enfants, il a des fils, mais. Il a eu une famille nombreuse, hein, le pauvre. Ta femme était folle, enfin. Ça, si on pouvait tirer un peu plus sur le truc. Enfin bon.
Donc il y a eu le retour, hein, donc avec plus ou moins des cérémonies mystiques qui l'ont ramené à la vie. Bon bah, est-ce que Kraven n'aurait pas dû rester un personnage
mort
comme comme l'a été Oncle Ben
ou normal,
comme l'aurait dû être Barry Allen, ouais. Le mec qui a remis une petite couche.
Bah oui, et si tu, je cite pas normalement Osmond Harry. Bah, Harry, c'est aussi De Matteis qui l'avait tué. Dans une arc aussi qui était très très bon. Et à chaque fois, c'est ça, pour ça, bah, tu évoquais la nature cyclique des comics, on a fini par le ramener. C'est malheureux, voilà, c'est malheureux parce que, on en parlait avec la mort de Jean Grey et de l'arc de Dark Phoenix Saga, les résurrections tendent à amoindrir, en fait, l'impact de l'arc original. Alors, ça reste toujours très bon, Kraven the Last Hunt. Voilà, ça reste une putain de bonne histoire. Mais ça, voilà, ça aurait été encore plus élevé s'ils ne l'avaient pas ramené. Parce que du coup, ils l'ont ramené, mais, est-ce que Hunted était vraiment marquant? Toi qui l'as lu?
Non, enfin. C'était trop long pour ce que ça voulait faire, déjà. Je suis en train d'essayer de me remémorer la fin. Il y a une grosse bagarre ouais, entre les deux et Kraven en fait se sacrifie. Voilà, Kraven se sacrifie.
C'est super logique. Bon, j'ai pas lu l'histoire donc je vais éviter de critiquer.
Il se sacrifie pour Peter quoi. Mm-hmm. Il se sacrifie pour Peter pour en endossant le costume et il permet à Peter de s'échapper de cette espèce de bulle dans laquelle ils sont tous coincés avec tous les vilains. Et donc il va se faire mettre en pièces par tous les vilains et il va crever pour faire la pape pendant que Peter peut s'échapper et aller régler la situation ailleurs.
D'accord. Voilà. Mais c'est pas super marquant.
Ben c'est un Kraven's Last Hunt d'aujourd'hui, donc light quoi.
Dommage. Mais ça rejoint mon argument, c'est. Est-ce que les personnages qui ont eu une mort marquante et qui ont été ramenés par la suite ont véritablement eu des histoires importantes par la suite? Ouais. On a ramené Jean Grey avec X-Factor. Est-ce qu'elle a fait quoi que ce soit depuis 30 ans, à part recrever dans le run de Morrison, qui ait vraiment été waouh. Voilà. J'ai pas l'impression personnellement. Donc ça. Pour moi, les résurrections de personnages comme ça joue avant tout sur la
nostalgie.
La nostalgie des lecteurs pour une époque et une histoire. Sauf qu'en fait, à chaque fois, les scénaristes n'ont aucun plan pour les personnages. Enfin, je l'ai vu quand ils ont ramené Nightcrawler. Ils n'ont rien fait du personnage par la suite.
Non.
Ils l'ont ramené en quoi, 2005-2006. J'ai 14 ans. Non, ils l'ont ramené en 2011-2012. Je dis des bêtises. 2011-2012. Ça fait 8 ans, ils ont rien fait avec lui. Hein. Voilà, Bendis l'a ignoré, et les scénaristes de l'ère Lemire et ensuite Guggenheim et truc, à part le faire coucher avec Rachel Gray, ils ont rien fait avec le perso. Ah si. Ils lui ont donné une barbe.
Ben, voilà. Quand même.
C'est un niveau de développement de personnage qui est hallucinant. Voilà.
Si tu vois, c'est une question un peu con. Si tu refaisais un Kraven's Last Hunt aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais à cette histoire? Qu'est-ce que tu modifierais? Quel personnage tu ferais intervenir? Comment tu referais l'histoire si tu devais la refaire aujourd'hui? Si on te dit, bah, refais un Kraven's Last Hunt, pas forcément avec Kraven, hein, justement. Qu'est-ce que tu ferais?
Je crois que je changerais rien. Pour moi, l'histoire est quasi parfaite.
Bon, alors je vais poser la question autrement. Si tu dois refaire Kraven the Last Hunt sans Kraven, tu fais comment?
Je jouerai sans doute avec le avec Norman Osborn, avec le Bouffon Vert. Et j'explorerai leur relation, véritablement. Tous les aspects. Est-ce que le... Je pense pas qu'il l'enterrerait vivant, mais je pense qu'avoir un véritable arc où les deux explorent leur relation, et je n'entends pas de manière salace, merci d'éviter les deux, les doubles sens, mais mettre tout sur la table, en fait. Et où Norman comme Peter vont être renvoyés à tout ce qui les a... tous leurs affrontements, en fait, au fil des décennies. C'est... Je pense qu'il y a tellement de choses entre eux, tellement d'histoires, qu'à un moment, avoir ces deux personnages véritablement mis dans la même pièce et tout mettre sur la table, si c'est fait par un bon scénariste, parce que je sais que, par exemple, Warren McKee avait essayé de le faire sur la fin de son run et c'était à chier, pour moi, ça peut être grand. Mais il faut véritablement maîtriser la psychologie de, du Bouffon Vert. Véritablement le faire, non pas l'espèce de blague ou de l'ennemi héréditaire ou ce genre de truc, véritablement... Parce que là, ce qui fait de Kraven the Last Stand un chef-d'œuvre, en fait, c'est que De Matisse donne une vraie psychologie à Kraven au-delà de ben, « je déteste Spider-Man, je vais me venger ». C'est pas ça. Il le présente vraiment comme un être qui est brisé, en fait. Qui est brisé, qui est fou, mais pas dans le sens sens comics. Fou dans le sens qu'il est une tragédie vivante. Qu'il ne pourra... son esprit est en lambeaux. Et il se raccroche aux derniers éléments qu'il peut. Ce dernier élément, c'est Spidey, en fait. Donc si on avait quelqu'un qui arrivait à écrire un Norman Osborn à la fois brisé et à la fois noble, qui arrivait à atteindre cette dimension, ça pourrait pour moi être spécial.
J'ai vu passer Tommy qui nous disait d'ailleurs dans les TPB, il y a une page rajoutée, donc Kraven's Last Hunt, la page à la fin où on voit le sang couler sur la photo de famille Kraven, elle est dans les comics originaux. C'est une page qui est dans le c'est la dernière page de Amazing Spider-Man de 294.
Ouais, mais elle est dans le Marvel Gold aussi. D'ailleurs le jeune Kraven qui ressemble étrangement à un jeune Bruce.
Ouais.
Donc je pense que c'était voulu de la part de Mike Zack.
C'était une demande de Dematteis dans le script.
Ouais. Pour dire aux éditeurs de Batman, vous voyez un peu ce que vous avez raté. Bon, sachant que la mise en scène du suicide de Kraven est là aussi. Mike Zeck, monsieur, nous vous saluons. Cette scène ensuite de quelques pages plus loin de Spidey dans les égouts.
Oui, ah mais c'est, je veux dire, cette exploration et c'est, et tu vois, ça c'est un truc que j'ai trouvé dommage. C'est que là, c'est très, c'est très marqué le côté un peu claustrophobe d'être enterré, d'avoir subi tout ça, et ça n'a jamais été vraiment réexploré derrière. Et c'est bien dommage.
Mmh. Ouais. J'ai pas l'impression que les scénaristes aient tiré les bonnes leçons du récit. Mais c'est pour ça que je parlais de rupture de ton quand on passait au run de Michelini ensuite. Parce que justement, il revenait à quelque chose de plus simple et de plus léger, en fait, dans ses histoires et dans son ton général et dans son Peter. Qui était, au fond, beaucoup moins exploré. C'était juste, retour aux affaires normales.
Si je devais refaire Kraven, avec un autre personnage que Kraven, je pense que je ferai un peu comme ça a été fait dans Mad Dog, mais cette fois-ci carrément à Ravencroft. Je le ferai enfermé, en fait. Je le ferai enfermé dans Ravencroft pour le mettre face à tous ses démons, face à tous ses ennemis qui le verraient devenir complètement fou. Pareil, sans le démasquer, mais tous les autres ennemis dans des cellules capitonnées qui le voient et qui l'invective tout le temps et l'emmener jusqu'aux confins de la folie. Non pas cette fois-ci aux confins de la mort, mais l'emmener jusqu'aux confins de la folie. Pour le briser psychiquement, pour le reconstruire derrière. Moi, je sais que ça a déjà été fait, hein, mais...
Ouais. Bah, ils avaient déjà tenté le coup avec lors de la saga du clone. J'avais l'impression qu'il passait la moitié de son temps à Ravencroft pour s'y faire enfermer.
C'est comme ça que je le referai, moi, si je devais refaire un Kraven the Last Hunt. Alors, avec quel ennemi, par contre? Docteur Octopus, maintenant, il y a eu tellement de passifs que c'est trop compliqué d'aller sur ce terrain-là.
Ouais. Puis, pour moi, il faut le laisser reposer de coq, hein.
Bah, j'utiliserai peut-être, son plus vieil ennemi, finalement. Le vautour.
Oh, j'ai jamais aimé Sir Boom. S'il y avait un scénariste qui arrive à bien l'utiliser, pourquoi pas?
J'utiliserai le vautour. Alors, rien ne prouve que le mec est pas intelligent. Enfin, le mec est vieux et puis, s'il est prêt à claquer, c'est quelqu'un aux abois est beaucoup plus dangereux, hein, de toute façon. Donc, ouais. Voilà. Je pense que je le referais comme ça si je devais le refaire. Bon, après, le bouquin est très bien comme il est. Il n'a pas besoin de modification, quoi. Allez, si je devais faire des petits reproches alors j'avais dit que je trollerais, c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure. La séquence où Peter s'est échappé et va confronter Kraven. Tu sais, quand il lui met la patate et puis l'autre lui dit non, moi je me défends pas. Qu'est-ce qu'il fait, Kraven?
Il lui sourit.
Il se fout à poil.
Ouais. Ah bah, de toute façon, je le disais dans le chat tout à l'heure, dans cette partie-là que tu évoques, il y a quand même un fort sous-entendu sur leur relation. T'as quand même quelques cases où tu as justement Kraven qui vient lui caresser la joue et où lui dit mais mon affection te gênerait-elle? Effectivement, t'as un sous-entendu amoureux et sexuel qui est assez fort en fait. Donc c'est quelque chose auquel de Matthys a aussi pensé.
Et ouais, il y a cette séquence là où je me dis bon le mec à poil c'est pas grave, tiens Spidey, tu veux voir ma bite? <C'est>, ok. Et
oui, avec un regard, Tommy le dit, qui caresse Spidey sur la joue avec un regard tendre. Bah oui, il y a quand même toute cette idée durant tout le récit où Kraven veut posséder Spider-Man psychologiquement et physiquement, et là il pousse à l'extrême en fait. Il franchit quasiment le pas.
L'autre truc, je donnerais un rôle plus important à Mary Jane.
C'est vrai qu'elle est... l'inclut parce qu'elle est le dernier point de vue et l'autre truc, mais c'est vrai qu'elle est peu développée, en fait.
Elle sert de demoiselle en détresse, et uniquement de demoiselle en détresse. On a un Kraven habillé en Spider-Man qui vient la sauver d'un viol. Peter rentre. Il s'en sert comme vide-couille, et il se casse. Je suis désolé, hein, c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est ça, je veux dire. Il la voit, ils sont contents, ils baisent, et après, « Oh, salut chérie, je vais aller me bastonner avec Kraven. » Mais attends, mais reste, tu peux pas partir. « Ah si, il faut que j'aille lui casser la gueule. » Elle sert pas à grand-chose. La meilleure séquence qu'elle a, c'est quand elle va chez Robbie Robertson,
oui.
Où elle... elle est à deux doigts. Elle est à deux doigts, mais j'aurais aimé voir un peu plus ça explorer. Enfin, je veux dire, on la voit trois séquences où on fait oh là là, Peter, il est où? Il me manque. Oh là là, mon Dieu, je suis inquiète. Enfin,
elle n'est qu'en fait dans le bouquin que la représentation de l'amour de Peter. Elle n'est pas un vrai personnage.
C'est vraiment le point que je changerais, tu vois.
Lui donner une place plus importante.
Ouais, ouais, ce côté demoiselle en détresse m'ennuie un petit peu. C'est pas que ça, Mary Jane. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire d'ailleurs sur cette histoire et sur cet arc?
Que c'est pas à lire si vous êtes déprimé, parce que c'est quand même bien noir. Même si la fin du récit est relativement lumineuse et remplie d'espoir.
On n'a pas parlé de William Blake. Si je voulais en parler quand même.
Ah oui, ouais, bah, parce que du tigre, oui.
Oui, parce que c'est quand même là que tu vois donc que t'es dans un comics qui n'est pas juste un divertissement pour enfants. On a quand même dès le premier épisode de citer et transformer le poème de William Blake Tiger Tiger qui est transformé en Spider Spider pour l'occasion, ce qui fonctionne très bien.
Parce que là il s'agit avant tout de faire référence à ce que représente le tigre et l'araignée, qui est juste le totem, la figure animale et quasi divine.
Je veux dire là rien qu'avec ça, si en lisant le premier épisode t'as encore l'impression de lire un truc un peu pour enfants, même si je vois pas comment ça pourrait être le cas. Je veux dire, tu finis avec une citation d'un poème de William Blake. On n'est pas dans un comics pour jeunes. Ouais. On n'est pas dans pour jeunes.
J'ai vraiment l'impression que ce poème est vachement important dans la culture anglo-saxonne. Hein, je le vois cité de manière régulière.
Bien sûr, il est très important. Alors, on le fait beaucoup apprendre aux enfants. Parce qu'il y a le côté comptine, etc., assez simple, mais non, il y a quand même toute une signification derrière.
Mais beaucoup moins en France, hein, il est beaucoup moins connu chez nous.
Ah bah oui, bien sûr, mais c'est parce que c'est un poème qui ne se traduit pas. Je veux dire, tu ne traduis pas de la poésie, sinon ça n'a pas de sens, quoi. pour arriver à faire les rimes. On n'est plus sur de la traduction, on est sur de l'adaptation, si tu veux essayer de respecter le côté rime.
Oui.
Et tu changes finalement le sens qu'avait voulu donner l'auteur. Et c'est pas... Voilà, là c'est vraiment c'est pour faire de l'étude de lettres directement dans la langue et point barre. Mmh.
Mais c'est quand même bizarre de se dire que moi j'ai pris connaissance de ce poème grâce aux comics en fait. Comme quoi tu dis ça peut te cultiver le comics aussi. Ça peut t'apprendre des choses.
Mais quand on est sur un comic résolument tourné pour des adultes.
Oui.
Pour des adultes et là on est clairement pour un truc sur des adultes. Bah, je veux dire rien que ce premier épisode, enfin la séquence où t'as un mec à poil qui tabasse. Alors certes ce sont des animaux empaillés, mais qui tabasse des animaux empaillés, qui dit qu'il va crever, enfin frontalement. On a ensuite un mec qui vient dire bye bye à un mort. On a une séquence où Kraven est complètement shooté et commence à bouffer des araignées dans son esprit.
Tout va bien.
Voilà, et il finit par buter le héros sur un poème de William Blake. Et l'enterrer sur un poème de William Blake. Non, c'est pas le comics pour enfants. Non, c'est pas. C'est un truc qui est résolument tourné pour un public qui est beaucoup plus mature.
Oui.
Bon, faudra m'expliquer aussi pourquoi l'esclave, parce que bon, c'est ni plus ni moins que ça, l'esclave de Kraven. Donc le Black, hein, évidemment. Et le seul qui est torse nu sous la pluie. Tous les autres sans costume, lui, il est torse nu sous la pluie. Je sais pas.
Parce que...
Bon, il le traite quand même vraiment comme un gros esclave, puisque bah c'est lui qui creuse les trous. Hein, c'est le mec qui... On le voit, à chaque fois qu'on le voit, c'est lui qui creuse les trous.
Ouais. Bah, il a un boulot, et il le fait bien.
Ah bon. Non, c'est vraiment ouais, du comics mature. Et on finit quand même, et rappelons-le, on est en 87. Alors oui, les mentalités évoluent, même dans le comics, on sait très bien, on commence à savoir que, bah, y a pas que des enfants qui le lisent.
Mm-hmm.
Mais on finit quand même sur un suicide.
Ouais.
Et c'est quand même ultra impactant d'avoir un des ennemis majeurs de Spider-Man, et, ou un ennemi tout court d'ailleurs. Mais c'est encore plus impactant sur le fait que ce soit un cast régulier, enfin régulier, ou en tout cas assez régulier, qui se flingue.
Ouais, c'est pour un comic sorti en 87, oui. C'est clair que c'est d'ailleurs pour ça que je pense que ça a autant marqué les lecteurs à l'époque. Et Duke me dit, j'avais 10 ans quand j'ai lu cette histoire.
Ouais. Et je pense que même si tu l'as apprécié et que ça t'a peut-être donné le goût des comics un peu plus adultes comme ça, je pense qu'à 10 ans, on n'est pas à même de la comprendre parfaitement. Il y a plein de sens qui nous échappent.
Oui. Ça c'est clair. Normalement, le thème est extrêmement mature, où tu as besoin d'avoir du recul. Et je vais pas dire un certain niveau de culture, mais tout simplement, oui, de recul, en fait. Voilà. Sur les choses, sur les idées, sur les histoires qui te sont présentées. Parce que tu as besoin d'avoir ce recul pour analyser.
Et Tommy qui nous dit, d'ailleurs, la réplique de Mysterio à la fin de l'arc, sous l'aile du diable de Daredevil, donc le run de Kevin Smith et Joe Quesada, ça, je l'ai volé à Kraven. J'avais oublié cette réplique. Énorme. Mmh. Énorme. Il dit ce soir j'enregistre une émission sur Alien, un des films les plus anxiogènes de l'histoire. Oui, mais c'est vrai que moi je me tape une bonne soirée, je me tape Kraven et derrière Alien. Sympa la soirée, sympa le confinement où vous voulez donner du bon esprit aux gens, Sam. Hein, super. On voulait faire plaisir aux gens, leur faire penser à autre chose et on parle d'un mec qui se suicide. Sam, pourquoi?
Mais on parlera de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sympathique lors de la prochaine émission.
Oui, peut-être. Greg qui nous dit « Je prends beaucoup de recul quand je lis mes comics, mais c'est à cause de mon début de presbytie.
» Je peux comprendre.
Ça, c'est très bon. Ça, c'est très, très drôle. Effectivement, ben, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, si vous avez des choses à ajouter, peut-être, qu'on aurait oublié. Oui, en plus, c'est vrai qu'on a les annonces du président soir qu'on a vu passer sur le chat. J'ai pas voulu les reprendre parce que mon sang bout à l'intérieur, donc j'essaie de pas en parler à l'antenne. Je me gêne pas sur le chat, mais j'essaie de pas en parler à l'antenne. Donc c'est vrai que ouais, c'est la soirée qui pue la merde. Quand même. Mmh. c'est la soirée du désespoir.
Pourquoi?
Bah écoute, Kraven's Last Hunt, les annonces oui. De merde, plus derrière Alien pour moi.
Je les ai pas écoutées les annonces, donc je peux pas dire.
Oui, mais moi j'ai vu tout le rapport fait par nos amis sur le chat. Mmh. Ouais. Est-ce que ce sera du DC Fun? Non, pas du tout. Si vous avez des petites choses à nous partager encore sur Kraven, qu'on aurait peut-être oublié, qu'on parce qu'on est parti un peu dans tous les sens et qu'on a oublié de mentionner, ou des choses que vous, vous avez vues dont on n'a pas parlé, c'est le moment, puisqu'après on va vous annoncer l'émission prochaine, ou les deux émissions prochaines d'ailleurs, parce que oui, j'avais dit, je vais travailler sur un Rock City. Bon, j'ai pas eu tout le loisir que je voulais pour travailler, mais jeudi je ferai un Rock City, quoi qu'il arrive. Histoire d'avoir une émission jeudi, donc jeudi je ferai un Rock City à 19h.
Tu as déjà défini le thème ?
Non.
Donc ça sera la surprise jeudi.
Non. Je me tâte à faire une émission sur l'enfermement. Je sais pas si c'est de bon goût.
Non. Non, fais plutôt une émission sur les gens qui courent libres dans les prés.
Oh, attends, c'est du métal, oh. Où c'est que t'as vu qu'il y avait des gens libres qui courent dans les prés qui sont joyeux ? Sinon, on parle pas de la mort.
On est enfermé dans des hangars pour secouer la tête d'avant en arrière avec des cheveux longs et sales.
Sinon, on parle pas de la mort, je vois pas de quoi on va parler, Sam.
Bah écoute, le Hellfest, c'est quand même.
Le Hellfest est annulé.
Je sais, ouais.
Gray nous dit.
Mais tout est annulé, je vous dis, 2020 est annulé, faut s'y faire.
Kraven est russe, est-ce une allégorie de la chute à venir de l'URSS ? Vous avez 2 heures, nous dit Gray.
Je sais pas, parce qu'il parle avant tout de la chute de la Russie tsarique, en fait. Dans le bouquin. Et comment ça a eu un impact sur sa propre famille.
Tommy qui nous dit, tiens, moi je n'ai jamais été attiré par Sigourney Weaver. Oh, homme de peu de foi. Homme de peu de foi, Tommy.
Comment c'est possible ? Attends, Sigourney Weaver dans Alien, si elle te laisse insensible, on va poser des questions. Hein. Voilà. C'est ce qui est pas mal, hein. Mais il faut effectivement te poser des questions. Ça informe beaucoup sur toi-même. Ou ça répond à des questions, en fait. Voilà. Ah, ça j'aime. Ah, non. Bon. Voilà. Bonjour, monsieur.
C'est... Et Greg qui dit, putain de merde, c'est ma réponse à tout. Greg qui demande à Tommy s'il a un problème de cécité concernant Sigourney Weaver.
Ah, merci, Greg.
Ben oui, mais Sigourney Weaver est tellement jeune dans ce film. Tellement jeune. Bref.
Et en plus, elle vieillit très bien.
Ah oui, oui, oui. À l'époque, j'avais d'autres goûts. Dari Lana dans Splash, par exemple. Ah, mais oui, Tommy. Mais oui. Ah, au moins, on est deux à connaître Splash. C'est bien. Ah,
je me sens. Aussi Splash, c'est très bien.
Ah, mais bon,
ça,
voilà.
Ça m'a vieilli, mais.
Enfant des années 80, réveillez-vous.
Ah oui.
Réveillez-vous. Splash.
Ah, Dari Lana qui est aussi très bien vieilli. Effectivement. Oula, oui.
Oulala, ça me. Attention. pas d'attouchement avant la fin de l'émission, s'il te plaît, Sam.
Ah, mais c'est celle qui joue dans Kill Bill, en fait.
Bah, possible. Kill Bill, je l'ai pas regardé. Je suis pas fan. Je suis pas fan de...
Oui, c'est, elle joue Elle Driver dans Kill Bill. Celle qui sait qu'il y a le cache-œil.
D'accord. Et je nous dis, vous savez ce qu'a fait Disney Plus ? Et Gray qui reprenait la même chose. Ils ont censuré le cul de Dari Lana dans Splash.
Les fous. Vous voyez ce qu'on laisse passer.
Ah bah ça c'est la méthode Disney les enfants. C'est la méthode Disney.
Hérétique. Vous êtes tous des hérétiques.
On sera bien quand le monde sera dirigé par Disney. On sera très très bien.
Ouais, stérilisé. Lisse. Quoique leur film raciste des années 50-60, bizarrement je ne crois pas qu'il soit sur Disney+.
Ah bah oui, non mais c'est Disney qui contrôle comment tu penses maintenant. Et qui contrôle ce que tu dois voir. C'est un peu comme ça. Ouais.
Comme quoi, c'est important de conserver les supports physiques.
Quand elle part plonger, ils ont rajongé les cheveux et c'est mal fait en plus. Eh ben putain, super. Lucie dit, Splash, je l'ai vu petite parce que c'est un film de sirène, mais j'ai tout oublié, j'ai pas souvenir d'un bon film. Oh, c'est très mignon, Splash. C'est la petite sirène adaptée en live action, sans dire que c'est la petite sirène. Au fait, Bob Iger reprend Disney à cause du Covid. Ah, finalement, il partait, mais finalement, il revient. Oh, bah, super.
Oui, il part jamais très longtemps. Ça, c'est peut-être l'univers en fait qui a dit non, Bob, tu restes.
Greg il dit jouer en PLS quand il voit que Dari Lana a des cheveux en plus alors qu'elle n'en avait même pas besoin, elle. Oh, ah. c'est mesquin, Greg, c'est mesquin. bon, bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour hein, sur Kraven the Last Hunt. Oui. Si ce n'est pas le cas, bah lisez-le si vous ne l'avez jamais lu ou relisez-le justement. D'ici vendredi, alors comme je disais, jeudi, il y aura un Rock City, pour le thème exact, comme je me tâte encore, j'hésite entre 3 trucs, vous saurez ça jeudi, et maintenant que je me suis engagé à le faire, bon bah voilà, hein.
C'est la merde.
Mais je travaille jamais mieux que quand j'ai la pression.
À partir de quelle heure?
19h, je veux garder le même horaire, 19h. Bah, pour pas que ça nous baisse pour le lendemain, en fait. Parce que si je le fais plus tard, ça va nous niquer pour le lendemain, pour l'émission du spécial du vendredi. Donc, je suis obligé de garder l'horaire de 19h. Et Greg qui dit, je l'attends celle-ci. Bah, merci beaucoup, Greg, ça fait très plaisir. 19h jeudi, oui, Pascal. Je garde toujours, confinement, on garde toujours la même heure du 19h, comme ça, l'Access Prime Time, ça vous laisse la soirée pour pouvoir aller voir d'autres lives. Il y a plein de gens qui font des directs, il y a plein de gens qui font des émissions.
Et justement. Dans pas longtemps.
Oui. Oui. Bientôt. Tant que je refais pas 7h comme vendredi, ça me va.
Tu enchaînes à quelle heure?
21h.
D'accord, dans 10 minutes.
Je mange pas, non? Bah non.
T'as pas besoin de manger, tu es le premier être humain qui n'a pas besoin de manger.
Et bientôt, je vais décider d'arrêter de dormir, comme ça je gagne du temps.
C'est pas toi qui m'as dit, c'est pour les faibles, dormir.
Mais oui, c'est pour les faibles, dormir. C'est pour les faibles. Mais bon, malheureusement, des fois, le corps me rattrape. Je n'ai pas le choix, je tombe. Quant à l'émission de vendredi, eh bien, avant ça, je vais prendre la réaction de Tommy. Oh putain, non, je vais prendre la réaction de Lucie qui nous dit « C'est pas de sa faute s'il joue à le Chovid 19. » Ça, c'était drôle. Pardon, je devrais pas. Tommy nous disait « Allez, un autre amour de l'époque, Sharon Stone, qui a bien vieilli elle aussi. » Tout à fait.
Et Jonah qui dit « Jennifer Garner a bien vieilli aussi. » Oui, oh oui. Oh oui.
Voilà. Oui. Écoutez, on est en confinement, là, ça commence à démanger les gens, hein. Désolé si on devient de plus en plus.
Bah, je sais pas si t'as vu Jennifer Garner récemment, mais voilà. Si vous pensez que Ben Affleck était pas un gros con, vous le penserez quand vous la verrez.
Et juste derrière moi, là, donc, je l'ai vu récemment. Ouais. Je ne donnerai pas mon adresse, ne venez pas chez moi, je suis occupé. Donc le thème pour vendredi, parce qu'il est quand même grand temps, on a reporté, ça fait 10 minutes qu'on blablate et qu'on retient le thème, les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sera ni Marvel ni DC.
Non.
À moins que, peut-être que
c'est un peu beaucoup. Disons que c'est un gigantesque hommage à l'un des deux univers et surtout à un en fait. Voilà, par un auteur n'a pas été bien traité par cet éditeur.
On va laisser un peu les gens deviner là sur le chat. Voilà. Moi, ma réflexion, c'est quand même qu'on fait un peu trop de comics hommages. Va falloir qu'on arrête. Trop de comics hommages.
Alors. Écoute, on vient de faire l'un des plus grands arcs et l'une des plus grandes histoires de Spider-Man qui n'est pas un hommage. C'est plutôt une histoire auquel on fait hommage.
Mais heureusement, on va pas faire que des comics hommages quand même, par pitié. Ouais. Ça suffit. Alors j'attends parce que je sais qu'il y a un gros décalage ce soir. Je me suis aperçu qu'il y avait un gros décalage, donc ouais. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est à cause de Mixler qui a des problèmes de capacité. J'ai vu qu'on était d'habitude on est plus sur une dizaine, quinzaine de secondes. Là j'ai l'impression qu'on est plus sur entre 30 et 40 secondes de décalage entre ce que nous on dit et quand les gens réagissent sur le chat. Tommy nous propose Spawn. Non, ce n'est pas ça. Surtout on va pas traiter une aussi grosse série comme Spawn. Une série Image, nous dit Tommy.
Non, ce n'était plus chez Image.
C'était plus chez Image. Voilà. Alors ça, c'est un gros indice. Une spéciale Liefeld chez Image, je nous dis Gré. Tu brûles au niveau de l'univers.
Oui. C'est une création de Liefeld.
Gré nous proposait Amalgam.
Comme on pourrait tout chez Liefeld.
Nous proposait Amalgam juste avant. Effectivement, on pourrait penser à faire un spécial Amalgam pour le prochain décès. Écoute, il y a un moment, je vais choisir des thèmes et je vais les imposer moi aussi.
Ah mais tu peux, hein. Franchement, ça me dérange pas, vas-y.
Eh bien, Pascal a trouvé en premier Suprême de Alan Moore.
Ouais.
Voilà. Bravo.
Alors pas tout, on va avant tout traiter les 12 premiers épisodes de Suprême, qui sont pour moi, l'arc principal et la meilleure partie de son rôle.
Si j'ai le temps, je lirai les autres pour qu'on puisse en dire un mot, mais je suis pas sûr. Je garantis pas, c'est d'ici vendredi et j'ai un Rock City à faire. Putain, je suis dans la merde. Mais j'aime bien me foutre dans la merde tout seul, donc bon. On se quitte là, du coup, pour ce soir, pour ce 52e numéro des spéciaux, donc ce spécial sur Kraven the Last Hunt. Rendez-vous vendredi pour un prochain spécial concernant le premier arc de Suprême d'Alan Moore. Et jeudi pour le Rock City, le thème de lundi prochain est déjà connu.
Pascal qui résume bien ma pensée, enfin du bon Superman, cela va changer de chez DC. Oui.
Mais il y a du très bon Superman chez DC. Regardez ce que fait Brian Michael. Mais... Non, je déconne. Ah, je peux même pas finir la phrase. Ça suffit, enfin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On vous fait des gros bisous. On vous dit à jeudi ou à vendredi d'ailleurs. Oui, c'est une émission Rock City, c'est une émission métal, mais je vous promets, c'est pas que du gros bourrin violent qui tâche et qui fait devenir sourd. Il y a aussi des choses très jolies, très poétiques. Voilà. C'est vendredi suprême, tout à fait, Lichou. On garde pour le moment les spéciaux lundi et vendredi. On essaie de garder cette fréquence-là. C'est peut-être amené à changer. On va voir. Ça va dépendre aussi des thèmes que l'on traite. Quand il y a 12 épisodes à traiter, effectivement, le faire du jour sans lendemain, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre le temps de les lire, de les relire.
Même de prendre un peu de recul. Ça se lit assez vite, hein, parce que moi, j'ai relu cet après-midi en 45 minutes.
Oui, ça a été très vite, oui.
Et encore, j'ai pris mon temps, hein. J'ai vraiment pris le temps de regarder les pages, d'analyser, et en 45 minutes, une heure, c'était bon, hein. Donc, ça va.
Oui, mais
c'est vrai que quand tu passes à 12 épisodes,
il y avait 6 épisodes. Voilà, il y avait que 6 épisodes. Donc, ça va assez vite, effectivement. Si on traite 50 épisodes d'un coup, c'est plus compliqué, quoi. Donc, on essaye d'anticiper un peu. Nous, on a déjà des émissions prévues d'après. On essaie d'anticiper, mais voilà, c'est pas toujours simple. Sachant que, je pense que comme beaucoup d'entre vous, en ce moment aussi, on passe beaucoup plus de temps au téléphone avec nos proches. Ça prend beaucoup de temps. Je sais que cet après-midi, par exemple, j'ai encore passé 2 heures au téléphone avec ma mère. Forcément, c'est 2 heures pendant lesquelles, je fais pas de lecture, je travaille pas. Enfin, voilà.
Ah, c'est... Oui, mais c'est normal.
Donc voilà, 2 heures d'un côté, 1h30 de l'autre. Enfin, ça passe très vite, quoi. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué. On a plus de temps, mais en même temps un peu moins. C'est un peu bizarre, drôle d'époque. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous dit à vendredi pour le comics, à jeudi pour la musique. Portez-vous bien. Restez pas en confinement. Restez safe. Merde, je trouve pas de version française, donc restez safe. Voilà.
Restez en sécurité.
Mettez-vous des capotes quand vous sortez, sur tout le corps. Comme ça, vous attraperez pas la maladie. Écoute, moi j'ai des solutions. Voilà. Il y a des problèmes, je trouve des solutions, monsieur. Des gros bisous et à vendredi.
À bientôt.